Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin,
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une, ce matin, le bras de fer continue et la galère aussi pour faire le plein. Poursuite de la grève dans les raffineries, malgré des tentatives de négociation hier entre la CGT et la direction de Total Energy. On vous raconte les coulisses des discussions dans un instant. Après le déluge de bombes russes sur l'Ukraine, réunion en urgence du G7 cet après-midi. Une série de frappes largement condamnées à l'international, notamment aux États-Unis, où Joe Biden promet de nouveaux équipements à Kiev. Et puis, le café serré ou allongé, c'est conseillé. Une étude scientifique nous apprend que boire 2 à 3 tasses par jour aiderait à lutter contre certaines maladies. On vous dira lesquelles dans ce journal. Le journal de 5 heures, présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Voilà qui ne risque pas d'arranger la situation à la pompe où les files d'attente continuent de s'allonger pour faire le plein. Un tiers manque encore de carburant ce matin. Elisabeth Borne, à peine rentrée d'Algérie, a réuni plusieurs ministres en urgence dans la soirée sans prendre de décision sur d'éventuelles mesures en cas de poursuite des blocages. Pourtant, après une réunion hier avec la direction, la grève continue chez Esso ExxonMobil. Même chose chez Total. Baptiste Morin, le bras de fer s'éternise.
Oui, dialogue de sourds entre la CGT et Total Energy. Le mouvement est reconduit jusqu'à aujourd'hui et c'est tant même car une quinzaine de stations-service de la filiale Argedis seront fermées dès ce matin. La CGT demande toujours 10% d'augmentation sur les salaires de 2022. Total Energy a bien cherché une sortie de crise en promettant d'avancer au mois d'octobre les négociations salariales prévues en novembre et ce, à condition que le mouvement s'arrête. Proposition refusée, comme l'explique Éric Cellini, le coordinateur syndical de la CGT.
Les salariés ne sont pas mis en grève pour des promesses. Quand Total dit « on pourrait éventuellement avancer à octobre si vous arrêtez la grève », c'est pas suffisant. Total aurait été mieux inspiré en disant « nous, on convoque les organisations syndicales tel jour à telle heure et on parlera de tel et tel sujet ». Il aurait pu très bien être dès lundi matin, 8h.
Le syndicat qui regrette aussi le déblocage des stocks stratégiques par l'État et l'importation de carburant par Total Energy pour tenter de compenser. La CGT accuse Total Energy de jouer la montre. De son côté, le gouvernement demande au préfet de prendre des mesures pour empêcher la constitution de stocks inutiles. Très concrètement, interdit de remplir des jerrycans en station-service dans toute la France.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1, en attendant que la situation s'apaise, le gouvernement débloque ses stocks stratégiques et Total Energy importe des carburants. Objectif, compenser l'arrêt de 2 de ces 3 raffineries.
Le problème que pose cette pénurie aussi, Alban, c'est pour les professionnels de santé. Il faut que les médecins et les infirmiers puissent aller travailler.
Oui, hein, l'urgence est réelle. Conséquence, le syndicat Sud Santé des hôpitaux de Marseille demande la mise en place du plan blanc pour permettre aux professionnels de passer en priorité à la station-service. Karim Djebali, secrétaire général de Sud Santé à PHM, craint que la situation ne devienne catastrophique.
Aujourd'hui, la discussion qui monopolise nos hôpitaux, c'est comment on va faire pour se rendre au travail. Surtout qu'il y a pas mal de personnes qui habitent dans des endroits qui ne sont pas du tout desservis par les transports en commun. Au fur et à mesure, les choses vont encore plus s'aggraver. On a demandé, un peu comme en période de Covid, quand ils ont priorisé les personnels hospitaliers pour faire les courses, un peu comme ça, mais dans les stations essence. C'est-à-dire, quand on présente une carte de soignants, tous ceux qui travaillent dans la santé devraient pouvoir être prioritaires. Nous attendons cette mesure de pied ferme. C'est juste une question de santé publique.
Des propos recueillis par Johan Tritz pour Europe 1. À noter que la Fédération nationale du taxi demande elle aussi la priorité pour faire le plein. Son porte-parole affirme que la profession fait partie de la chaîne de soins.
Après quand les Mureaux dans les Yvelines, après l'hôpital de Corbeil-Essonne, eh bien le département de la Seine-Maritime est à son tour victime d'une cyberattaque d'ampleur.
Les services publics départementaux fonctionnent en mode dégradé, impossible de déposer certains dossiers individuels. Une enquête est ouverte par le parquet de Paris pour atteinte à un système de traitement automatisé de données, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs.
Europe 1 5h04, sommes-nous entrés dans une nouvelle phase de la guerre en Ukraine?
C'est en tout cas ce que pense Emmanuel Macron après le bombardement hier de très nombreuses villes ukrainiennes, même celles situées à l'ouest du pays. Colère à l'international, les membres du G7 s'entretiendront en urgence tout à l'heure. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant européen aux États-Unis où dès hier soir, Joe Biden a discuté avec Volodymyr Zelensky et cela a été productif.
Oui, pour Joe Biden, ces frappes sont l'illustration de la brutalité absolue de la guerre illégale menée par Vladimir Poutine. Ces attaques sans but militaire ne font que renforcer l'engagement des États-Unis aux côtés du peuple ukrainien, dit le président. Washington va continuer à fournir des armes à l'Ukraine, assure la Maison-Blanche, y compris des systèmes perfectionnés de défense anti-aérienne. Alors on ne sait pas exactement de quels équipements parle Joe Biden, mais en septembre, le Pentagone a déjà annoncé la livraison dans les prochaines semaines de 2 systèmes de défense antiaérienne et 6 autres à plus long terme. Ce sont les mêmes actuellement utilisés à Washington pour protéger les bâtiments de la capitale fédérale américaine. Volodymyr Zelensky réclame depuis le début de la guerre des armes et des systèmes plus avancés. La défense antiaérienne est la priorité numéro 1 de la coopération de l'Ukraine avec les États-Unis, explique-t-il. Une manière de rajouter encore davantage de pression sur Joe Biden, car il reste dans l'arsenal américain et chez les alliés de l'OTAN des armes défensives plus précises avec des systèmes de radar parmi les plus performants au monde.
Merci Alexis Guilleux, correspondant Europe 1 aux États-Unis. Autre crainte de la communauté internationale, une extension du conflit. Si tu veux la paix, prépare la guerre, a déclaré hier Alexandre Loukachenko, qui accuse l'Ukraine de préparer une attaque contre son pays. Le président biélorusse a annoncé le déploiement de troupes communes avec la Russie.
C'est le début cette semaine de la 10e campagne de fouilles en 2 ans pour retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin, disparue en 2003.
Ouais, elle a commencé hier à Issancourt et Rumel, dans les Ardennes, dans l'après-midi, avec l'ex-épouse de Michel Fourniret, Monique Olivier, extraite de la prison de Fleury-Mérogis pour l'occasion. Les recherches doivent reprendre ce matin.
On est nombreux à les enchaîner, un au réveil, un autre en arrivant au travail, par exemple, et puis un autre après le déjeuner pour bien digérer le café. Le café ne serait pas si mauvais que ça pour notre santé, Alban.
Nous sommes 8 Français sur 10 à en boire, alors cela vous concerne sûrement, encore plus à cette heure-ci. Selon une étude australienne publiée dans la revue scientifique European Journal of Preventive Cardiology, boire du café réduit le risque d'accident cardiovasculaire, Yasmine Akatou.
Corsé, décaféiné ou même lyophilisé, boire 2 à 3 tasses de café par jour réduit de 20% le risque de développer une maladie cardiovasculaire. 450 000 buveurs d'Arabica ont été suivis pendant plus de 12 ans pour arriver à ces conclusions. Si le petit kawa est si bon pour notre santé, ce n'est pas grâce à la caféine, mais grâce aux autres composants de la boisson. Patrick Assiag est vice-président du syndicat national des cardiologues.
Alors cette protection est corrélée à la présence de polyphénols, aux effets antioxydants et anti-inflammatoires sur les artères. Deuxièmement, à une réduction de 30% du risque de diabète. Troisièmement, à la protection du foie.
Des organes en bonne santé et une meilleure longévité. Boire du café réduit la probabilité de décès de près de 30%, disent les scientifiques. En revanche, l'étude précise pour les amoureux de la boisson, au-delà de 6 tasses, il peut y avoir des problèmes de rythme cardiaque. Il est recommandé de ne pas dépasser 4 expressos par jour.
Yasmina Katou.
Et quoi de mieux pour accompagner un café qu'une petite madeleine ?
Évidemment.
On vous propose celle de Proust, à la recherche du temps perdu.
Avec cette exposition, la fabrique de l'œuvre à partir d'aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France à Paris. 350 pièces qui prouvent aux visiteurs à quel point l'écrivain travaillait et retravaillait chaque page de ce classique de la littérature. Il y en a 2400 découvertes avec Marie Jiquel.
Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Le début légendaire d'À la recherche du temps perdu n'a pas jailli tel quel de l'esprit de Marcel Proust, que l'on sait malade. Il écrit allongé dans son lit, les murs de sa chambre tapissés de liège pour insonoriser l'espace.
On découvre que cette phrase, d'abord, elle est venue très tard.
Antoine Compagnon de l'Académie française, le commissaire de l'exposition.
Pendant très très longtemps, Proust ne savait pas où il allait mettre cette scène.
À travers ses manuscrits, annotés, raturés, découpés, recollés, par la main de Marcel Proust, on découvre par exemple que la fameuse Madeleine était plutôt rassis.
L'épisode de la Madeleine, il a été écrit 100 fois par Proust. C'était du pain rassis, puis c'est devenu une biscotte, puis enfin ça devient une Madeleine. La Madeleine, c'est beaucoup plus symbolique sur la coquille Saint-Jacques et ça nous renvoie à l'église. Mais tout ça a été élaboré pendant des années.
Beaucoup d'émotions aussi en découvrant des dessins dans un coin de page et le mot « fin » concluant une épopée littéraire inépuisable.
Marie Jiquel, la fabrique de l'œuvre sur Proust est à voir à la BNF à Paris jusqu'au 22 janvier. Et puis préparez-vous à chanter, danser et bouger la tête. Le groupe Arctic Monkeys, dont le prochain album sortira dans 10 jours, tout pile.
Ça réveille ça.
Annonce, ouais.
Avec un petit café bien tassé.
Une tournée européenne avec un passage en France, bien évidemment, le 9 mai prochain à l'Accor Hôtel Arena de Paris. C'était Bercy hein, avant. Ouverture de la billetterie vendredi matin.
Merci Abel Le Prince. Vous savez quoi, le rock, oui, c'est comme le café. C'est bon pour la santé.
Évidemment.
Sans modération.
C'est pour le cardio.
Le sport également, paraît-il.
Oui, le sport. Évidemment, le sport.
5h10, le journal des sports avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Nous sommes mardi et en football, mardi est synonyme de Ligue des Champions.
Exactement, Omblin. Et ce soir, début de la 4e journée de la phase de groupe où le Paris Saint-Germain reçoit les Portugais de Benfica. Un match capital pour le PSG qui devra composer sans son génie argentin Lionel Messi, toujours blessé au mollet. Pour le coach Christophe Galtier, l'absence de Messi modifie forcément les plans parisiens.
On ne peut pas se réjouir de l'absence évidemment de Léo, et peu importe quel joueur, mais encore plus quand c'est Léo. Évidemment que ça change certaines choses, oui, dans le déplacement et l'organisation des uns et des autres. Il faudra trouver d'autres situations, d'autres connexions pour amener le danger sur la défense portugaise.
Le PSG pourra cependant compter sur ses deux autres stars, Mbappé et Neymar, pour tenter de remporter ce match. Une victoire qui pourrait déjà permettre aux Parisiens de se qualifier en huitième de finale de la compétition, notamment si le Maccabi Haïfa gagne de son côté face à la Juventus. PSG-Benfica, un match à suivre à 21h dans Europe 1 Sport.
Eux ne sont pas en Ligue des Champions cette année, mais ils viennent de recruter un entraîneur de taille.
Oui, c'est l'Olympique Lyonnais qui a officialisé l'arrivée hier de Laurent Blanc et ses 4 titres de Ligue 1. Le coach français qui a pour objectif de ramener le club rhodanien sur de bons rails, car oui, Lyon pointe à la 9e place de la Ligue 1. Un bilan bien trop maigre au vu des ambitions du club. Comme l'expliquait hier soir dans Europe 1 Sport, le président lyonnais Jean-Michel Aulas.
Vendredi soir, match nul contre Toulouse qui était en fait la dernière chance que nous étions fixés. Donc dimanche, en fin d'après-midi, Laurent était à Lyon et confirmait qu'il venait nous tirer d'affaire pour la fin du championnat. Mais c'est l'aboutissement d'un rêve, en fait, qui a mis quelque temps à se concrétiser.
Laurent Blanc, qui a dirigé son premier entraînement hier, a donc rendez-vous dimanche pour son premier test face au Stade Rennais.
Judo, maintenant, Dimitri, avec la suite des mondiaux, et c'est aujourd'hui.
Eh oui, avec le début de la phase éliminatoire dans la catégorie des moins de 100 kilos, notamment pour le jeune Français de 20 ans, Kenny Livez, qui va effectuer sa grande première chez les grands. Titré en août chez les juniors, il a de grandes ambitions.
Mes ambitions sont de gagner toute compétition, donc celle-ci en fait partie et après ça ne sera pas facile, je sais qu'il y aura des adversaires de taille. Vu que je ne les connais pas tous, bah pour moi c'est tous les mêmes.
Kenny Livez au micro européen d'Axel May. Son grand baptême du feu débute ce matin à 7h où il sera opposé à Adnan Canan.
On termine ce journal des sports par du ski car dans moins de 2 semaines, c'est la reprise de la saison.
Et oui, et à cette occasion, le skieur français Alexis Pinturault était l'invité exceptionnel d'Europe 1 Sport hier soir. Le skieur alpin le plus titré de France et dernier champion du monde en titre se veut malgré tout modeste pour cette reprise.
Quand on me pose la question aujourd'hui vis-à-vis des championnats du monde qui seront à Courchevel en France, notamment dans mon village, ouais, que je veux à tout prix avoir l'or mondial, c'est pas tout à fait le cas. Bien sûr, ça me ferait rêver. Mais non, il y a des étapes à passer, des étapes qu'il faut franchir pour pouvoir potentiellement arriver en forme sur cet événement.
Première étape dans moins de 2 semaines, donc, pour le slalom géant de Soldon, course inaugurale de la saison de ski alpin, avec pour objectif préparer au mieux la Coupe du Monde en France, chez lui, à Courchevel, en février 2023.
Merci beaucoup, Dimitri Vernet, pour le journal des sports. 5h13, on passe aux courses. C'est le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 405 Trou Romance. Absent depuis sa 4e place obtenue dans le quintet du 10 avril sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, il va effectuer cet après-midi une rentrée très attendue. En effet, ce pur sang expérimenté, désormais âgé de 7 ans, est en parfaite condition physique le matin à l'entraînement et comme il va évoluer sur une piste bien souple qui ne pourra que l'avantager, nul doute qu'il devrait pouvoir justifier les bruits très favorables dont il fait l'objet depuis plusieurs jours le matin sur les pistes d'entraînement de Chantilly. Alors notez bien, pour cet après-midi à Saint-Cloud, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 5, Trou Romance.
Merci Thierry Léger. Vos pronostics du quintet dans une demi-heure sur Europe 1. Très bon réveil à tous, 5h14. Dans un instant, Anissa Dadi, encore une histoire dingue. Voici qu'une belle cascade brésilienne devient maintenant une vraie menace pour l'environnement. A tout de suite.
Dingue, ding, ding, ding,
ding. Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Il est 5h15 et c'est l'histoire dingue d'Anissa Haddadi à présent.
Une preuve ce matin, Anissa, une preuve que la bêtise n'a pas de frontières. Expliquez-nous.
Absolument, une histoire dingue et même désespérante. Je vous emmène à quelques kilomètres de Tangará da Serra au Brésil, sur un site paradisiaque. Là, pour l'instant, tout va bien. Un site avec une incroyable cascade sur des rochers historiques, millénaires, une eau transparente. Sauf que depuis quelques jours, une ombre vient gâcher ce tableau, ce beau paysage. Depuis le 25 septembre, l'eau de la cascade est bleue fluo, bleu couleur européen, vous voyez, ah oui, bleu roi. Quoi, ouais, vraiment,
c'est un bleu un peu pétant. Hein.
Ah oui, un bleu qui pique.
Ça n'a pas l'air d'être naturel, ce phénomène. C'est quoi?
Ah non, absolument pas. Le ministère de l'Environnement brésilien a même ouvert une enquête pour définir si les produits utilisés pour teindre l'eau de la cascade ont pollué la source. Alors, tout cela part d'une vidéo Instagram où l'on voit cette fameuse cascade bleu fluo. Dès que la vidéo a été publiée, elle a fait beaucoup réagir avec de nombreux messages d'internautes choqués. En fait, l'histoire part d'un couple. On voit un couple devant cette cascade, devant un cygne, c'est pas du tout moche et pas du tout kitsch, devant un cygne fait en ballon gonflable de plusieurs mètres de haut et un grand point d'interrogation bleu et rose. Cette vidéo était donc une vidéo ce qui se fait à la mode en ce moment, une gender reveal, en français une révélation de sexe. Ces fameuses vidéos où les couples de futurs parents révèlent par le biais de ballons ou de fumigènes bleus ou roses le sexe de leur futur bébé. Ils ont donc, ces champions, coloré l'eau de la cascade pour annoncer l'arrivée d'un petit garçon. Évidemment, l'eau était bleue. Les autorités brésiliennes prennent la vidéo très au sérieux car la rivière Queimapé est une source d'eau importante pour la ville voisine. C'est pas juste un décor paradisiaque, c'est l'eau qui approvisionne la ville de Tangará da Serra, frappée en plus par des périodes de sécheresse qui ont affecté le débit du fleuve. Pour l'instant, on ne sait pas encore si l'eau est potable pour la ville voisine.
Mmh. Et j'ai une petite idée quand même.
Ouais. Et le secrétaire d'État à l'environnement du Mato Grosso a annoncé dans un communiqué qu'il enquêterait sur le couple pour déterminer si les produits utilisés pour la teinte étaient nocifs ou pas pour l'environnement. Le couple a rapidement supprimé la vidéo en voyant le nombre de réactions indignées, mais des enregistrements, parce que vous savez que vous pouvez faire des captures d'écran dès qu'il y a quelque chose de posté, en une seconde, c'est fait. Hein. Des enregistrements ont été faits et l'une des copies de cette vidéo a déjà été vue plus de 3 millions de fois sur Twitter. Bon, je ne vous conseille pas d'aller voir cette vidéo de ces deux champions, mais les gens essayent de la regarder pour essayer de les retrouver.
Ah oui,
vous pouvez
d'accord.
peut-être les regarder et dire, ah, tiens, c'est mes voisins.
Ce que les réseaux sociaux peuvent faire de mieux. Enfin bref.
Ouais, exactement. Bon, nous, on a un petit message à leur passer à ces
le
gens-là.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Je crois que tout est dit. Hein. On peut envoyer un SMS sinon hein, pour annoncer
vous avez
le
bien,
sexe
vous
de
bien préparé votre coup, c'est Anissa, ce matin. Non, vous dites, vous avez bien préparé votre coup.
Je suis très en colère.
On va laisser poser.
Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Alors, du coup, on va se remettre de nos émotions et on se retrouve à
5h30. À tout à l'heure.
Pour la météo, à tout à l'heure.
Europe Matin.
5h18 sur Europe 1, mardi 11 octobre, les titres, Alban Le Prince.
Laissez votre jerrycan chez vous. Les préfets reçoivent aujourd'hui l'instruction d'interdire la vente de carburant dans un récipient. En plus, le Vaucluse, le Var et les Alpes de Haute-Provence limitent les particuliers à 30 litres. Dans ce contexte, la grève continue aujourd'hui dans les raffineries malgré des négociations entre CGT et direction de Total. Hier, conséquence, réunion d'urgence à Matignon dans la soirée qui débloque des stock stratégique. Le 49-3 tombera-t-il avant la fin de la semaine? Les députés ont débuté hier l'examen du budget 2023 avec plus de 3000 amendements. Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, pointe un risque de blocage et d'embolie. Le département de Seine-Maritime touché par une cyberattaque d'ampleur. Certains services fonctionnent en mode dégradé. Une enquête est ouverte. Et puis, pronostic vital toujours engagé pour l'adolescent de 16 ans, victime d'un accident de manège à Saintes en Charente-Maritime ce week-end. Une enquête est ouverte pour blessure involontaire avec une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Excellent début de matinée sur Europe 1 avec les initiatives en France à 5h19 et on prend soin ce matin de nos compagnons à quatre pattes.
Bonjour Marine Tersiquel.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de la start-up Pépette, spécialiste de l'alimentation fraîche pour chats et chiens. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez lancé Pépette il y a 3 ans. Alors, plus que de proposer de la pâtée pour nos petites boules de poils, hein, votre ambition, Marine Tersiquel, c'est d'offrir une meilleure alimentation à nos compagnons. Par meilleur, j'entends plus équilibré.
Exactement. Le concept de pépette, effectivement, c'est de remettre de la vraie nourriture fraîche dans les gamelles de nos chiens et de nos chats. Et ça part à l'origine d'une conviction forte qui est la suivante, que l'alimentation joue un rôle fondamental sur notre santé. Alors c'est vrai pour nous les humains, mais c'est également vrai pour nos animaux de compagnie. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on trouve dans les gamelles de nos chiens et de nos chats, qu'on y voit très majoritairement, ce sont des produits industriels ultra transformés avec, bien entendu, la fameuse croquette qu'on connaît tous et des produits justement ultra transformés qui sont souvent trop riches en additifs, en colorants, en exhausteurs de goût et également beaucoup trop riches en glucides. Et tout ça avec une conséquence sur la santé de nos animaux qui est la même que l'on connaît aussi dans l'alimentation humaine avec des produits ultra transformés, c'est-à-dire des problèmes d'obésité, de surpoids. Donc l'obésité aujourd'hui, c'est un des problèmes les plus récurrents qu'on rencontre, les problèmes de santé chez les chiens et les chats, puisqu'on a 30% aujourd'hui de nos chiens et chats en France qui sont atteints d'obésité. Et c'est exactement la même chose avec aujourd'hui l'accélération des problématiques de diabète et d'autres corollaires voilà, qui se déclenchent de plus en plus tôt dans la vie des animaux à cause d'une alimentation qui est effectivement pas adapté et qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle de la malbouffe.
Donc de l'alimentation pour nos animaux moins grasse, moins sucrée, fraîche, c'est quoi ? C'est donc des légumes ? On les cuisine comme si on faisait un plat pour les humains dans le laboratoire ?
Effectivement, nous, ce que l'on souhaite faire à la mission de Pépette en remettant de la vraie nourriture fraîche dans les gamelles, c'est de refaire de l'alimentation quotidienne un acte de prévention santé pour nos animaux. Peut-être le premier acte de prévention santé, la première des assurances santé quelque part pour nos chiens et chats. Et on repart en fait d'un concept qui existe depuis très longtemps qui s'appelle la ration ménagère. C'est-à-dire des repas frais qui sont composés et équilibrés pour parfaitement correspondre aux besoins énergétiques de nos animaux. Et là, on s'appuie effectivement sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la nutrition. Et pour ça, on repart effectivement d'ingrédients frais qui sont pas transformés, qui sont simplement cuits à basse température, à la vapeur pour conserver en fait tous les vitamines et les nutriments naturellement présents dans les légumes, dans la viande. On utilise également des protéines animales propres à la consommation humaine. Et ça, c'est pas de l'ordre du gadget. C'est tout simplement parce que ces protéines sont beaucoup plus digestibles pour l'animal, donc il les assimile parfaitement bien et ils ont un apport nutritionnel qui est beaucoup plus fort que les sous-produits animaliers, bec, pâte broyée, et j'en passe des meilleurs qu'on retrouve aujourd'hui dans l'alimentation industrielle. Donc ça, c'est vraiment le premier des piliers, donc la nutrition repartie en fait d'ingrédients frais, non transformés et qui sont hautement digestibles et assimilables pour nos animaux de compagnie. Et de l'autre côté, on a un autre pilier qui est celui de la technologie. Comment, en fait, on utilise la technologie au service d'une meilleure alimentation pour nos chiens et nos chats. Et donc, en fait, on part là d'un questionnaire sur notre site en ligne où on vous pose tout un tas de questions sur votre animal pour définir, en fait, son profil énergétique, ses besoins énergétiques. Et c'est sur la base de ce besoin énergétique qu'on vient vous proposer le programme alimentaire qui va être parfaitement adapté à ses besoins.
Alimentation adaptée, voilà. Donc totalement personnalisée. C'est ce que vous
Exactement.
Dites avec un bilan, d'accord.
On fait ce bilan nutritionnel en ligne et on vient vous proposer le programme alimentaire qui va être parfaitement adapté. Et je prends un exemple concret. On parlait tout à l'heure des animaux qui sont en surpoids. Ça concerne aujourd'hui 30% de nos chiens et chats en France. Un animal qui est en surpoids n'aura pas le même besoin énergétique qu'un animal qui est aujourd'hui à son poids de forme. Donc nous, on prend en considération, par exemple, cette caractéristique et on va faire en sorte de lui proposer le programme alimentaire qui, pour alléger sur poids, en un mois et demi, va lui permettre de revenir à son poids de forme. Et ensuite, on réadapte, en fait, vous avez vraiment votre espace en ligne qui est l'espace de votre animal où on réadapte, en fait, le programme de votre animal tout au long de sa vie et en fonction de ses évolutions de vie.
Un animal de compagnie, on ne va pas se mentir, hein, ça coûte cher entre les soins et donc l'alimentation. Le prix, lui aussi, est sur mesure. Vous essayez de vous adapter à toutes les bourses, si j'ose dire.
Voilà, on propose différents types de formules, à la fois donc pour les personnes qui veulent avoir un programme alimentaire à 100% et aussi pour les personnes qui veulent apporter une dose d'alimentation fraîche quotidienne dans la diète de leurs animaux. Et ça permet effectivement d'avoir aussi des formules qui sont plus accessible. Et il y a aussi un élément qui est très important.
Et une meilleure alimentation, Marine Tersiquel, c'est aussi moins de rendez-vous chez le vétérinaire, j'imagine. C'est toute une logique.
Exactement. L'idée derrière, c'est, je parlais d'actes de prévention santé, c'est de faire en sorte de proposer une alimentation qui va donc limiter le développement de certaines pathologies. Sur quoi, effectivement, aujourd'hui, derrière, c'est des problèmes articulaires, c'est des problèmes cardiaques chez les animaux, et donc des interventions de plus en plus récurrentes chez le vétérinaire. Et c'est aussi ce qu'on essaye de limiter. Non pas qu'on n'aime pas les vétérinaires, au contraire, mais l'idée, c'est d'avoir des animaux qui sont en pleine santé et qui vivent le plus longtemps possible à nos côtés, et tirer cette espérance de vie vers le haut, et non pas l'inverse avec une alimentation industrielle qui cause des problèmes de santé de plus en plus importants et de plus en plus tôt, malheureusement, dans la vie de nos chiens et de nos chats.
On vous retrouve sur le www.pepette.co. Merci beaucoup, Marine Tersiquel, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la fondatrice de Pepette, spécialiste de l'alimentation fraîche pour les chats et pour les chiens. Bonne journée.
Merci, Ombline. Bonne journée.
Merci. 5h28, quel plaisir de commencer la journée avec vous. Bon réveil, mardi 11 octobre, dans la prochaine demi-heure, Alexandre.
Eh bien, rendez-vous pour les fans de Japanimation, mais aussi pour les néophytes, hein, d'ailleurs. La Naruto Symphonique Experience, c'est le manga Naruto qui va prendre vie avec 50 musiciens sur scène. C'est un show organisé pour la première fois à Paris. Et puis, dans toute la France, on sera avec le producteur à 6h moins le quart. On fera donc le point de culture, hein, Omblin, jusqu'à 6h, avec le livre ensuite choisi par Nicolas Caro.
Oui, celui d'Anser qui porte un drôle de nom, notre si chère vieille dame auteur et qui fait partie de la sélection Goncourt. Et puis comme chaque mardi matin, on va retrouver Caroline Speller, une manette entre les mains. Caroline a testé pour vous la suite du jeu de tir Overwatch. Le premier volet avait connu un joli succès il y a 6 ans. La prescription culture dans 20 minutes.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une de l'actualité, condamnation unanime. Les Occidentaux et l'ONU dénoncent les bombardements massifs russes en Ukraine. La guerre a-t-elle changé de nature? Emmanuel Macron en est convaincu. Réunion du Conseil de défense aujourd'hui à l'Elysée. Les détails dès le début de ce journal. Nous ferons le point sur la situation dans les stations-service. Un tiers est à sec. Situation inégale selon les régions. À Nantes, il y a de l'essence, mais la peur de manquer provoque la pénurie. Les professionnels sont eux aussi touchés. Les taxis demandent à intégrer la liste des usagers prioritaires. Sinon, disent-ils, on ne pourra plus travailler. Nous entendrons les syndicats. Le football, début de la phase retour de la Ligue des Champions. Paris reçoit Benfica ce soir au Parc. Match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La guerre en Ukraine a sans doute franchi une étape supplémentaire après les bombardements massifs opérés par les Russes. Les condamnations pleuvent et l'on tente d'organiser la riposte du côté des Occidentaux. Les Nations Unies sont réunies depuis hier soir, Assemblée Générale convoquée en urgence à New York. Le président américain Joe Biden promet de livrer des systèmes de défense aérien à Kiev. À Paris, un premier conseil de défense restreint s'est tenu hier soir autour d'Emmanuel Macron. Un deuxième est prévu aujourd'hui. L'inquiétude est palpable, Jacques Serret.
Oui, c'est lui-même qui le dit. Hier après-midi, en déplacement en Mayenne, Emmanuel Macron a déploré, je cite, « un changement profond de la nature de cette guerre », comme si le conflit était entré dans une autre dimension, dans une nouvelle étape. Jusque dans l'entourage présidentiel, on confie que oui, le degré d'inquiétude est monté d'un cran. D'ailleurs, quelques heures à peine après la série de bombardements hier matin, le locataire de l'Élysée a décroché son téléphone, entretien en urgence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et dès son retour à Paris hier soir, le chef de l'État a convoqué ses plus proches conseillers diplomatiques et militaires pour une réunion au palais aux allures de conseil de défense. Mais au-delà des déclarations choc et de l'annonce d'une énième réunion au sommet, la marge de manœuvre de la France n'est pas plus importante qu'il y a 7 mois. Le 24 février dernier, juste après le début de l'envahissement russe en Ukraine, Emmanuel Macron parlait déjà de tournant dans l'histoire de l'Europe. À défaut de pouvoir y changer quelque chose, les mots et les formules choc ont toujours l'avantage de faire illusion pour masquer notre impuissance.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La situation en Ukraine sera également au centre de la réunion d'urgence du G7 cet après-midi à 14h à Berlin. Moscou qui tente d'entraîner son allié biélorusse dans la guerre. Déploiement massif de troupes biélorusses signalées à la frontière nord. entre la Biélorussie et l'Ukraine. La crainte, c'est bien sûr l'ouverture d'un second front alors que les forces ukrainiennes sont largement mobilisées plus au sud.
La pénurie de carburant en France, le mouvement menace de s'enliser. La CGT reconduit la grève dans les raffineries du groupe Total Énergie.
Un tiers des pompes à sec au moins sur un type de carburant. La proportion monte à 1/2 pour les stations du groupe Total. Pas d'avancée dans les discussions entre les syndicats et la direction. Poursuite de la grève aussi dans les deux raffineries Esso et ExxonMobil. Le gouvernement acte l'impasse et promet de tout faire pour faciliter l'approvisionnement des stations.
La pénurie s'étend désormais à des régions qui étaient jusqu'ici épargnées. C'est le cas par exemple dans l'agglomération nantaise.
Et oui, et pourtant ces stations sont approvisionnées normalement, mais la peur de manquer précipite les automobilistes à la pompe. Reportage de notre correspondant à Nantes, Charles Louillard.
Je préfère recharger maintenant plutôt qu'après, s'il n'y en a plus, je me retrouve vraiment sans rien. Quoi.
Juste derrière cette jeune femme qui vient de raccrocher le pistolet, un autre automobiliste s'apprête lui aussi à remplir son réservoir. Il est pourtant loin d'être à sec, comme l'indique la jauge sur son tableau de bord.
Là, il me reste la moitié.
Et vous allez quand même à la pompe.
Oui, mais je fais partie des gens qui ont peur de ne pas avoir d'essence. Ça pourrait peut-être nous arriver par ici.
Conséquence de cette peur, les pompes ont parfois été prises d'assaut tout le week-end, comme un peu plus loin dans cet Intermarché au sud de l'agglomération nantaise. Depuis hier après midi, des plots barrent désormais l'accès à la station.
Ah bah là, j'ai plus du tout de carburant, ni de gasoil, ni d'essence.
Le gérant Sébastien Courtois s'en désole.
Il y a eu une augmentation très importante des consommations et qui a dépassé 30% ce week-end. Y compris des gens qui ne viennent pas habituellement sur notre station-service, qui arrivaient de Nantes pour se ravitailler. Alors que dans notre région, il n'y a pas de raison de s'affoler.
En effet, avec la raffinerie de Donges, toujours en fonctionnement, les stations du département continuent d'être plutôt bien réapprovisionnées et la pénurie qui sévit ailleurs en France n'est donc visible pas à l'ordre du jour ici. Nantes, Charles Guyer, Europe 1.
Et pour empêcher l'aggravation de la situation, l'interdiction du remplissage des jerrycans va être généralisée à toute la France, mesure déjà appliquée dans plusieurs départements. D'autres rationnent le carburant, 30 litres maximum par exemple par véhicule dans le Var, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence.
La pénurie touche tout le monde, mais certaines professions sont plus dépendantes que d'autres. C'est le cas par exemple des taxis.
Et au contraire des routiers ou des médecins, ils ne sont pas prioritaires et doivent donc patienter de longues heures avant de faire le plein. La situation devient intenable pour le président de l'Union nationale des taxis qui revendique 4000 adhérents. Rachid Boudjema demande au gouvernement de bénéficier d'une dérogation.
À l'heure où je vous parle, on a quasiment plus de 30% de nos taxis qui sont quasiment à l'arrêt. Et on commence justement à sélectionner, à opérer un tri sur les courses qu'on doit réaliser. À savoir que comme le taxi opère aussi des transports qui sont assimilés à de l'urgence, je parle bien entendu des transports des patients dialysés, des transports de patients en chimiothérapie, en radiothérapie. Aujourd'hui, on priorise ce genre de transport. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est des mesures claires à destination des préfets de région qui ouvrent les accès pour les taxis dans les stations réquisitionnées pour qu'ils puissent, au même titre que les véhicules d'urgence, pouvoir avoir accès à ces stations de service pour faire le plein et opérer les courses nécessaires d'urgence notamment.
Le président de l'Union nationale des taxis, Rachid Boudjema, joint au téléphone par Margot Faudéré.
Et c'est dans ce climat d'énergie rare et chère que l'Assemblée nationale débute l'examen du projet de budget 2023 avec une surprise. L'idée d'une taxe sur les super-profits fait son chemin.
Elle est défendue par l'opposition, même si le gouvernement refuse d'adopter formellement un texte en ce sens. Il veut obliger les énergéticiens à mettre la main au portefeuille. Il prévoit la création d'une contribution temporaire de solidarité via un amendement. Sont concernés les entreprises du pétrole, du raffinage et du gaz. Autre idée pour financer la protection de l'environnement cette fois. Eh bien, l'État s'en remet au loto. C'est un copier-coller du loto du patrimoine, Louise Salé.
Oui, cela reprendrait exactement le même principe que la mission Patrimoine avec un nouveau jeu à gratter spécial biodiversité. Et là aussi, les 12% habituellement prélevés par l'État sur le prix du ticket pourraient être reversés à une cause, à l'Office français de la biodiversité. Jean-Marc Zulesi est député Renaissance et président de la commission développement durable.
Vous êtes dans le parc de la Poudrerie à Saint-Chamas, par exemple, à côté de l'étang de Berre. Vous avez une volonté de préserver une espèce, il vous faut des moyens. Eh bien, on pourrait très bien imaginer, comme pour la mission patrimoine, avoir une mission biodiversité grâce à une plateforme. Et donc, à ce moment-là, on retient un certain nombre de projets. Et dans un second temps, grâce à ce loto de la biodiversité, vous venez financer toute ou partie du projet.
Mais pas sûr que cela attire des joueurs réguliers comme Olivier, rencontré à la sortie d'un tabac parisien.
L'idée est très bonne, effectivement, mais ça ciblera une certaine catégorie de joueurs, mais pas les gros joueurs comme moi. Acheter un jeu pour une cause, j'adhère pas, parce que je joue déjà beaucoup et c'est pour le gain, pas pour les bonnes œuvres, désolé.
Pour les joueurs occasionnels, donc plus sans
sensible à l'environnement, le prix sera tout de même un facteur important. Celui du ticket du patrimoine s'élève, lui, à 15 euros.
Voilà, gratter, c'est bon pour l'environnement.
Ouverture ce matin du cycle de négociations sur la réforme des retraites, Christophe, au ministère du Travail.
Le premier volet consacré toute cette semaine à l'emploi des seniors. Les représentants des syndicats et des organisations patronales seront reçus chacun leur tour pour un tête-à-tête, pas avec le ministre, mais plutôt ses conseillers. Parmi les pistes proposées par l'exécutif, la possibilité pour un chômeur de 55 ans ou plus de cumuler ses indemnités chômage avec un emploi moins bien rémunéré. L'idée fait bondir les organisations syndicales. 239 euros, c'est le montant moyen du découvert des Français. Un sur deux est dans le rouge au moins une fois par an, étude réalisée par le comparateur Panorabank.
Le football, avec le début de la phase retour de la Ligue des Champions, le PSG reçoit ce soir Benfica.
Et Paris pourrait pratiquement assurer sa place en huitième de finale en cas de succès. Des Parisiens assez nerveux depuis quelques semaines. Il y a eu ce match tendu en championnat face à Reims le week-end dernier. Il y a aussi l'attitude de la star Kylian Mbappé. Son comportement interroge et pourrait même agacer certains de ses coéquipiers, Cyril de la Morinerie.
Oui, Kylian Mbappé traverse une période délicate. D'abord, la star est moins efficace. Par moments, l'attaquant parisien surjoué tente de faire la différence tout seul. Mais surtout, le Bondinois montre des signes de nervosité inhabituels. Samedi dernier, on l'a vu pousser un joueur adverse. En coulisses, Kylian Mbappé se montre en fait très critique sur son positionnement. Sur les réseaux sociaux, le joueur de 23 ans a écrit ce mot-clé évocateur « pivot gang ». L'ancien monégasque n'aime pas ce rôle de pivot. Il aimerait retrouver sa liberté sur le terrain comme en équipe de France. Mais son entraîneur au PSG, Christophe Galtier, bien conscient de la frustration de son joueur, relativise.
Kylian ne devait pas jouer à Reims. Il a joué malade, fatigué. En plus, dans un match qui a rapidement pas très bien tourné pour nous. Évidemment que j'échange beaucoup avec Kylian, il échange beaucoup avec moi, il échange beaucoup avec le staff et qu'on est très sensible évidemment à ses remarques et à sa réflexion parce qu'il est un joueur très important de l'équipe.
Après l'affaire du penalty guette qu'il a opposé à Neymar, Kylian Mbappé est de nouveau au centre d'une polémique. S'agit-il d'un problème d'ego ? La star va pouvoir répondre sur le terrain. En l'absence de Messi ce soir, Kylian Mbappé, auteur de 11 buts cette saison, aura les clés de l'attaque parisienne.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1, PSG Benfica ce soir à 21h. Match à suivre en direct dans l'émission Europe 1 Sport. Prise d'antenne à 20h avec l'interview exclusive de Jean-Michel Aulas. Le président de l'Olympique Lyonnais reviendra notamment sur le choix de Laurent Blanc au poste d'entraîneur.
Rendez-vous est pris ce soir dans Europe 1 Sport. Merci Christophe Lamarre. Les pronostics du Quintet sur Europe 1 à 5h40. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour ce Quintet qui va se courir sur la distance classique de 2400 mètres. Attention, 15 partants et non 16 comme initialement prévu. Le numéro 3 ayant déclaré forfait. J'ai choisi les numéros 4 Baden Rocks, 6 Blue Swan et 8 Rue des Irlandais, classés respectivement 3e, 5e et 6e d'un quintet similaire le 19 septembre, disputé exactement sur le même parcours que celui qu'ils emprunteront cet après-midi. Et sur la foi de cette bonne performance dans cette épreuve référence, ces trois-là sont pour moi indissociables. On leur opposera Moonwolf, le numéro 15, idéalement placé en bas de tableau de ce handicap et adepte des pistes très souples, et Sam, le numéro 7, très confirmé à ce niveau, mais aussi sur ce tracé. Enfin, les numéros 9, Breath of Fire, 1 Mikado et 10 Totem compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 6, 8, 15, 7, 9, As et 10.
Merci beaucoup Thierry Léger. Tous ces pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie.
C'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Et voici le jour où les grands faits historiques racontent à travers les archives d'Europe 1.
Il y a 60 ans exactement, le Concile Vatican II. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Alexandre, bonjour Ambline.
Laure, vous nous replongez avec le service des archives d'Europe 1 au lancement de ce Concile Vatican II. 11 octobre 1962, c'est un événement qui va changer le visage de l'Église pour lui apporter un certain vent de modernité.
Oui, c'est une idée du pape Jean XXIII qui, 3 ans plus tôt, voulait aérer l'Église. Voici Jean XXIII, juste avant la cérémonie d'ouverture du Concile.
Le Concile contribue à établir la paix et à procurer une juste liberté culturelle et religieuse. paix qui favorise la concorde entre les États.
Le monde est alors en pleine période de guerre froide et à cette époque, la sécularisation est de plus en plus importante. Les évêques ont reçu juste avant le concile un questionnaire à remplir. Ils sont en majorité conservateurs, mais beaucoup ont compris qu'il faut agir comme cet évêque.
Un renouveau de l'Église, renouveau spirituel, renouveau liturgique.
Réaction de catholiques ce 11 octobre 1962.
Est-ce que ça vous paraît à vous très important ?
Moi personnellement peut-être pas, mais enfin ça touche quand même énormément de monde, aussi bien les croyants que le reste, et je trouve qu'au point de vue catholique c'est important.
2000 évêques arrivent donc à Rome dans la basilique Saint-Pierre pour l'ouverture du concile.
Un concile qui devait être court, il va finalement durer 3 ans, jusqu'en 1965, pendant 3 ans pendant lesquels 4 sessions vont être organisées.
Oui, 16 textes au total sont écrits. Le Concile Vatican II est un bouleversement. Les rites sont simplifiés pour permettre que davantage de fidèles y participent. Et la langue latine est presque totalement abandonnée. Sur place à Rome, pour Europe numéro 1, Christian Bernadac.
Il est 8h30, les nuages ont disparu du ciel. Le ciel est bleu, le soleil illumine la place Saint-Pierre. Sur cette place, maintenant, 20 000 personnes. Les petites cloches que vous venez d'entendre donnent le signal à toutes les cloches de Rome, à toutes les cloches aussi des églises catholiques du monde.
Pour la première fois lors du concile, l'Église dit qu'elle partage une forme d'humanisme avec le monde moderne. Et aussi, presque 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme est clairement condamné. 60 ans après, le Concile Vatican II est aujourd'hui encore un élément de référence au sein de l'Église.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1.
5h44, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Dans un instant, rendez-vous avec le plus célèbre apprenti ninja. Le célèbre manga Naruto arrive sur scène à Paris et ensuite en tournée dans toute la France. C'est un show pour les fans, mais pas seulement, pour tous les autres également. Le producteur nous rejoint dans un instant.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Bon début de matinée sur Europe 1. L'un des mangas les plus célèbres a trouvé son adaptation sur scène à l'occasion des 20 ans de Naruto et pour la première fois en France. Tous les fans de l'apprenti ninja vont pouvoir vivre la Naruto Symphonique Experience, un ciné-concert de 2h30 à Paris. Ce sera ce week-end, puis en tournée dans toute la France. Votre invité Alexandre, c'est Julien Valespy, producteur et initiateur du projet.
Bonjour Julien Valespy.
Bonjour.
Alors on rappelle d'abord combien Naruto est un géant du manga, de la BD japonaise. 250 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'an dernier en France, il s'en est vendu un toutes les 10 secondes, c'est dire. Mais alors aux profanes, parce qu'il y en a, et j'en fais d'ailleurs partie, vous expliquez comment d'abord Naruto en quelques mots.
Naruto, c'est l'histoire d'un apprenti ninja qui va tout découvrir sur cet univers-là et qui à la base est un enfant un peu agité et qu'on ne pense pas aussi doué que cela et qui petit à petit va devenir le plus grand des ninjas, sans dévoiler la fin évidemment.
Alors voilà donc les personnages de Naruto grâce à vous qui vont prendre vie sur scène le week-end prochain à Paris puis dans toute la France. C'est un show grand format, 50 musiciens sur scène précisément.
Oui c'est ça, 50 musiciens sur scène qui vont jouer toute la musique pendant un film, un montage inédit qui résume les 200 premiers épisodes de Naruto, c'est-à-dire de sa jeunesse jusqu'à l'adolescence. Donc voilà, c'est au Palais des Sports ce week-end effectivement.
Alors sans spoiler le spectacle bien sûr, si on lève un petit coin de rideau, on pourrait aussi appeler cela un opéra manga, c'est un concert symphonique live et c'est une séance de cinéma 100% Naruto.
Oui, c'est exactement ça. Donc c'est un ciné-concert, donc on va venir voir un film avec des dialogues, des bruitages de manière classique, en version originale sous-titrée français. Et l'orchestre va interpréter toute la musique tout au long du spectacle pendant à peu près 2h30. Donc oui, c'est effectivement le mélange des genres, un concert, un opéra, et on vient voir une séance de cinéma.
La musique, justement, ce n'est pas de la musique classique, carrefour de plusieurs styles également, Julien Valespy. On appellerait ça comment ? Un concert rock symphonique ?
Oui, peut-être, c'est un bon terme. Effectivement, la musique de Naruto est très rock et également inspirée de la musique traditionnelle japonaise. Et puis, il y a cet élément symphonique que nous venons rajouter sur l'œuvre de Naruto. Donc, c'est vraiment le mélange de ces trois musiques, effectivement.
Le montage qui va être projeté sur écran géant répond à un vrai défi. C'est un concentré de la plupart des moments forts des aventures de Naruto en animé, qui est l'adaptation du manga du même nom, bien sûr.
Oui, c'est exactement ça. C'est, pour être tout à fait exact, les 200 premiers épisodes qui sont montés d'une façon dynamique, mais effectivement qui vont raconter l'histoire à ceux qui la connaissent, mais aussi à ceux qui peuvent la découvrir. Je pense notamment aux parents qui pourraient accompagner leurs enfants. En deux heures et demie, on va raconter l'histoire de Naruto.
Donc, à voir en famille, c'est conçu pour être vu en famille également. Alors, les fans, bien sûr, vont être comblés, mais vous avez aussi voulu relever ce défi hein, de laisser ce spectacle ouvert, je veux dire accueillant et compréhensible pour tous les non-initiés.
Oui, c'est exactement ça. Donc, je pensais aux familles et notamment aux parents qui peut-être entendent parler de Naruto depuis des mois, des années.
Oui.
Ils vont pouvoir effectivement assister à ce spectacle. On va découvrir un film. Et si on ne connaît absolument rien de Naruto, en deux heures et demie, on sera absolument incollable sur le début de cette aventure.
Bon, alors le fan service est au top, hein, puisque je vois que autour de cet événement, il y a tout un village hein, qui vous suit. Il y a des stands avec des produits dérivés, il y a des compétitions de gaming, on peut échanger avec des influenceurs.
Oui, effectivement, c'est la notion d'expérience aussi qui est à la fois valable sur scène et dans la salle, mais aussi avant, les spectateurs vont pouvoir venir et découvrir dans le hall du Palais des Sports ce week-end, puis ensuite dans les différents zéniths, des stands, des influenceurs, des produits autour de Naruto, des statues et qui seront en exposition également. Donc voilà, c'est un moment de partage et de rencontre aussi pour les fans.
Comment vous expliquez ce phénomène Naruto, en tout cas en France hein, est-ce que c'est la qualité des personnages, du scénario? Est-ce que c'est encore cette japomania qui ne se dément pas?
C'est difficile à savoir, mais ce qui est sûr, c'est que la qualité de l'écriture des personnages et de l'histoire est certainement une des raisons de ce succès. Puis la musique aussi est très très importante. Les fans connaissent absolument toutes les musiques, les génériques. C'est absolument dingue, ça a été une découverte incroyable pour moi là depuis deux ans et demi que je travaille sur ce projet.
Donc grosse ambiance dans la salle, hein, sans aucun doute, hein, pour commencer ce week-end à Paris.
Oui, on l'espère, mais effectivement les trois premières dates à Paris sont presque complètes, donc on va passer un très bon moment ensemble.
Le manga attire toujours une foule d'adeptes, beaucoup d'adultes également. Je sais qu'à l'origine, Naruto a été conçu pour un public de garçons, hein, plutôt de 10 à 15 ans, mais on a largement dépassé ses frontières depuis.
Oui, effectivement, et hier, donc c'était les 20 ans de Naruto, donc on a à la fois des personnes qui ont maintenant 30, 35, 40 ans, mais aussi la jeune génération qui découvre grâce à leurs grands frères ou naturellement d'autres amis pourraient en parler. C'est effectivement aujourd'hui beaucoup plus mélangé, enfants, adolescents, adultes et aussi garçons et filles. Les filles se sont emparées de ce phénomène-là naturellement depuis maintenant plusieurs années et ça fait partie des personnes les plus influentes sur les réseaux sociaux notamment autour de Naruto.
Naruto Symphonique Experience, adaptation sur scène du manga Naruto, spectacle à voir en famille dès l'âge de 7 ans. C'est à voir au Dôme de Paris pour commencer du 14 au 16 octobre et puis en tournée dans toute la France. Je rappelle que vous êtes le producteur de ce ciné-concert. Merci à vous, Julien Vallespie.
Merci à vous.
Europe Matin.
Europe 1, il est 5h51, les titres de ce 11 octobre, Alban Le Prince.
Les files d'attente continuent de s'allonger devant les stations essence. La CGT de Total Energy n'a pas réussi à se mettre d'accord avec la direction hier et poursuit le mouvement aujourd'hui. À noter qu'un rassemblement est prévu ce matin devant le site Esso de Fos-sur-Mer à l'appel des CGT Total et Esso. Pour laisser du carburant à tout le monde, le remplissage de jerrycans va être interdit à partir d'aujourd'hui dans tout le pays par arrêté. De bombes hier sur l'Ukraine. Conséquence, réunion d'urgence du G7 cet après-midi. Dans la soirée, Joe Biden a promis à Volodymyr Zelensky des systèmes perfectionnés de défense antiaérienne. Et puis ne manquez pas Europe 1 Sport. Ce soir, quatrième journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit Benfica à 21h sans Lionel Messi blessé au mollet.
Europe Matin.
5h52 bientôt sur Europe 1. Allez, un petit café, vous l'avez entendu il y a quelques minutes, hein, c'est bon pour la santé. Un petit kawa, bien tassé, et la prescription culture, oublie-le.
Oui, jeux vidéo le mardi avec Caroline Speller qui va bientôt nous rejoindre.
Mais oui, on se tourne d'abord vers Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
Alors ce matin, un drôle de roman, hein, Nicolas, avec un drôle de titre.
À moins que ce soit le roman ultime, il est signé Anne Serre au Mercure de France. Il s'appelle « Notre si chère vieille dame auteur ». Accrochez-vous.
Alors, que raconte-t-il ce roman ?
Alors là, c'est l'histoire de rien. Enfin, c'est l'histoire d'un roman écrit sans doute par cette si chère vieille dame auteur du titre, une vieille femme sur le point de mourir. On lit son manuscrit, c'est une sorte de conte, mais ça va dans tous les sens, il y a des trous. Et dans ces cas-là, on les comble avec une interview de l'auteur. Et puis, il y a aussi un réalisateur venu tourner le documentaire et l'interview, une script et tout un tas de personnages qui sont un peu cette si chère vieille dame auteur. On les croise, on croise aussi le narrateur pour de vrai, un vrai narrateur. Il a un petit costume gris de narrateur comme il se doit. Ça ressemble ressemble à un conte, mais une sorte de conte idéal, presque caricatural, puis ça vire à autre chose. C'est beau en tout cas et drôle aussi. On ne sait pas bien où on est, à vrai dire.
Oui, on ne sait pas bien où on est. J'avoue que je n'ai pas tout compris, Nicolas.
C'est fait exprès. C'est une sorte de jeu, un roman à tiroir avec des pièges un peu partout. Mais en fait, bon, Anne Serre, c'est une écrivaine reconnue, très armée littérairement, et elle nous démonte le mécanisme d'un roman. Et quand on le lit, on ne se perd pas, on comprend tout, même si ça va donc dans tous les sens. C'est un manège littéraire, si vous voulez, avec ce qu'il faut d'amusement en tout genre. C'est un peu tous les romans dans un seul, et en seulement 120 pages, des jeunes, des vieux, des dames, des filles qui sont peut-être que la même personne. C'est une sorte d'hymne à l'imaginaire, un antidote à toutes ces histoires peut-être inspirées de faits réels. Une ode à la fiction, ce sont tous les bonbons fournis par l'imagination. Je sais pas, je me rends bien compte que c'est difficile à décrire ce roman, mais allez-y, faites-moi confiance. Et d'ailleurs, il fait partie de la sélection Goncourt.
On vous fait toujours confiance, tous les matins, Nicolas. Merci. C'était donc ce livre, notre si chère vieille dame auteur, paru au Mercure de France. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour, Caroline Speller.
Bonjour, Ombline. Bonjour, Alexandre.
Alors, ce matin, Caroline, une grosse licence de jeux vidéo, hein, avec la sortie il y a quelques jours seulement de la suite d'un gros succès de 2016.
Et ce jeu, c'est Overwatch, édité et développé par le studio américain Blizzard. C'est un FPS, un jeu de tir à la première personne qui privilégie l'esprit d'équipe et la tactique. On intègre donc un groupe de guerriers avec chacun ses propres capacités et on affronte via Internet d'autres escouades dans des aires de combat. Alors ça paraît compliqué comme ça et pourtant il est facile d'accès, fun, au design cartoonesque, sans effusion de sang et il se déroule dans notre monde en 2077 et évidemment il faut le sauver.
Le monde va changer une fois de plus. L'heure est venue de choisir ton camp.
Nous pouvons influer sur le cours des choses.
Alors sa suite, Overwatch 2, est plus belle, s'est enrichie de nouveaux personnages ou de nouveaux lieux, mais hormis le fait que les équipes sont maintenant composées de 5 joueurs au lieu de 6, pour accentuer le dynamisme des combats, on parle au final d'une très belle mise à jour.
Alors pourquoi jouer à Overwatch 2 plus qu'au premier, Caroline ?
Alors déjà, les serveurs internet du premier Overwatch ont été coupés, donc vous êtes obligés de jouer aux deux. Mais surtout, Blizzard a changé son modèle économique, fini le jeu à 60 euros, Overwatch est devenu un free-to-play, un jeu gratuit à télécharger. Mais évidemment, y a un mais. Comme les jeux gratuits sur smartphone ou tablette, il y a un système de micro-paiement. Ce sont des contenus payants qui permettent de personnaliser son avatar, de jouer plus vite ou qui donnent un avantage dans le jeu. Et Overwatch Watch 2, sous l'apparence d'un jeu gratuit, le porte-monnaie peut être vite sollicité. Ça va de 5 à 100 euros. Donc si en tant que parent, ce système vous inquiète, n'oubliez pas d'activer un mot de passe pour les achats. En attendant, Overwatch 2 est disponible sur toutes les consoles.
Merci beaucoup, Caroline Speller. Bon réveil, bon début de matinée. À suivre la météo, le journal de 6h et à 6h40, Alexandre, votre interview éco.
Deux semaines de bras de fer maintenant entre Total Energy, Esso ExxonMobil et les syndicats. Et toujours pas de porte de sortie dans cette crise des carburants. La grève a été reconduite pour au moins 24 heures. Pas d'annonce particulière hier soir après une réunion d'urgence à Matignon autour d'Elisabeth Borne. Alors comment sortir de cette impasse? On sera avec l'économiste Bertrand Martineau à 6h40 sur Europe 1.
Et avant ça, on se plongera dans les journaux du matin avec le pressing.
Sans oublier votre partition.
Oui, sous les yeux du monde entier, c'est lui qui fait tomber le rideau sur les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Lionel Richie scelle son destin et devient une superstar mondiale avec All Night Long et ses paroles légendaires et inventées, tombolées d'essai des Moya et Jumbo Jumbo. Ça veut rien dire, Alexandre. Rendez-vous dans 20
minutes. C'est ça la beauté de l'art, enfin, Ombline.
Il a inventé un jargon, Lionel Richie, c'est pour ça qu'on l'aime. À tout de suite.
Il est 6h sur Europe 1.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Ombline Roche.
Pas de carburant, pas de travail. Le casse-tête des artisans. La grève continue aujourd'hui chez Total Energy. Un tiers des stations-service restent vides ce matin. Une réunion d'urgence des pays du G7 après les bombardements russes en Ukraine. Comment s'est passée la nuit dans la capitale ukrainienne? Témoignage de notre correspondante dans ce journal. Et puis l'Olympique Lyonnais dans une situation d'urgence. C'est l'aveu même de Laurent Blanc, le nouvel entraîneur de l'OL. Le président du club, Jean-Michel Aulas, était l'invité d'Europe 1 hier soir.
Europe 1.
Le journal de 6h présenté par Roman Hoquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Rebelote, nouvelle journée de grève chez Total Energy. Le mouvement est reconduit, étendu aussi à 15 nouvelles stations-service. Une sur trois est toujours à sec en France. Face aux pénuries, des syndicats de soignants demandent un accès prioritaire pour poursuivre les soins à domicile. Et ce n'est pas la seule profession pénalisée.
Mais oui, que dire des artisans qui ne peuvent pas laisser leur voiture au garage. Pour eux, c'est simple, pas de carburant, pas de travail. Témoignage au micro de Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse.
Ça nous fout en l'air tout notre planning.
Delphine s'inquiète. Elle est la comptable d'une entreprise de menuiserie et sans carburant, leur chantier à l'autre bout de Toulouse est compromis. Alors même après sa journée de travail, elle cherche du diesel.
Quand on a su qu'il y en avait là, on s'est dépêché de venir. Le gérant a pris le camion et moi j'ai pris la commerciale. Là, si on peut en mettre, on va tenir 3 jours. Puis on verra au fur et à mesure. C'est stressant, ouais.
Nicolas lui a retardé au maximum son passage à la pompe, mais le carreleur est sur la réserve. Désormais, il doit faire le plein s'il veut continuer à travailler.
J'ai tiré jusqu'au bout, mais en pensant que ça allait se régler, mais c'est pas le cas. On s'appelle avec les conducteurs de travaux, eux qui sont souvent sur la route pour savoir s'ils tombent sur des stations où il y a du gasoil et puis on s'y en courant comme ça.
Jean-François lui pose des stores, il a 800 km à faire cette semaine, alors entre deux rendez-vous, dès qu'il voit une station, il s'arrête, mais tout ça lui prend beaucoup de temps.
Je dois remplir le complément de réservoir si je veux faire toutes mes visites de la semaine, voilà. On est tenu par nos obligations professionnelles avec des opportunités de faire de l'essence quand on peut. Donc c'est très compliqué et ça annule beaucoup de rendez-vous au préalable pour le futur. Perdre de temps, perdre d'argent, il est temps que ça s'arrête.
Et si ça dure, il faudra peut-être s'adapter. Un plaquiste me disait qu'il réfléchissait à prendre le train pour aller travailler sur des petits chantiers dans le centre-ville le temps que la crise passe. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe.
Et si vous habitez dans le Vaucluse, le Var ou les Alpes-Maritimes, la vente de carburant est désormais limitée à 30 euros par client. Quant au remplissage des jerrycans, sachez que c'est désormais interdit sur tout le territoire.
Et la situation s'éternise. Deuxième semaine de grève chez Total Energy pour réclamer 10% de hausse de salaire.
Et de son côté, le gouvernement hausse le ton pour ramener syndicats et direction à la table des négociations. Un échec à ce stade. Arthur Delaborde, Elisabeth Borne organisait hier soir une réunion d'urgence à Matignon. Quelles sont finalement les options pour mettre fin à la crise ?
Eh bien, Elisabeth Borne mobilise d'abord ses équipes et les ministres concernés pour faire le maximum sur le plan logistique. Des stocks stratégiques ont été débloqués. Il faut donc les acheminer vers des stations-service et cela nécessite un gros travail d'organisation avec des transporteurs routiers. On a remis beaucoup de carburant dans les stations, mais on voit que la pénurie ne se résorbe pas. La faute à un phénomène de panique, explique un conseiller. Les membres du gouvernement multiplient donc les appels à ne pas se ruer dans les stations, mais l'entourage de la Première ministre reconnaît que le message a du mal à passer tant l'inquiétude est grande pour de nombreux Français. Le cœur de la stratégie de Matignon, pour le moment, c'est de mettre la pression sur les pétroliers et leurs employés pour les pousser à sortir du conflit social. Les revendications salariales sont jugées légitimes par Elisabeth Borne, mais un de ses proches explique que les directions de Total et Esso montrent suffisamment de signes de bonne volonté pour que les négociations se fassent autour d'une table et pas en bloquant le pays.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, la première ministre n'exclut pas non plus de réquisitionner des raffineries par la force avec l'intervention des forces de l'ordre. Selon les informations d'Europe 1, plusieurs préfets auraient sollicité cette option auprès de Matignon.
Du carburant plus rare et plus cher aussi. Si vous avez réussi à remplir votre réservoir, vous l'avez sûrement constaté, plus 11 centimes sur le litre de gazole en une semaine.
6h et presque 4 minutes sur Europe 1. Jusqu'où peut aller le Kremlin ? Question posée aux États membres du G7 qui se réunissent en urgence à 14h. Un sommet à distance après les bombardements russes en Ukraine.
Un changement profond de la nature de la guerre. Voilà pour le commentaire d'Emmanuel Macron qui a convoqué également un conseil de défense hier soir à l'Élysée.
Clotilde Bigot, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Kiev en Ukraine, une capitale qui a retrouvé donc la peur des déflagrations, les rues éventrées aussi. L'électricité a été coupée dans la ville, décision des autorités pour ne pas se faire repérer par les Russes. Et finalement, Clotilde, la nuit s'est plutôt bien passée. Hein.
Oui, une nuit anormalement calme parce que tout le monde s'attendait à des frappes la nuit dernière, sachant ce qui s'était passé hier matin. Les habitants de Kiev, eux, ont donc pu dormir pour la plupart chez eux. Certains sont allés dans le métro préventivement, mais la plupart se tenaient simplement prêts à sortir dès que possible, donc c'est-à-dire dormir habillés avec un sac prêt à partir dès la première sirène. Il faut savoir aussi qu'ici, la consommation d'électricité hier soir a été grandement réduite, d'à peu près un quart. Zelensky, le président, a demandé à réduire sa consommation d'électricité après que des infrastructures aient été touchées. Donc c'était une soirée calme, une soirée de repos. De repos avant quoi ? Personne ne le sait, mais c'est pour ça que les habitants de Kiev se sont dit, voilà, ce soir, je me repose parce que demain, je ne sais pas ce qui peut arriver.
Merci Clotilde Bigot, correspondante d'Europe 1 à Kiev, en Ukraine. 6h05, bienvenido à Paris, bienvenue à Paris avec mon piètre accent portugais. Un petit peu travaillé quand
même. Non, ça marche,
j'espère
ça marche.
J'espère que vous saluez l'effort, Alexandre, quand même, merci. Donc la capitale accueille ce soir le Benfica. Bien sûr, match retour de la Ligue des champions de football. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul la semaine dernière, un partout sur la pelouse de Lisbonne.
Une rencontre à suivre dans Europe 1 Sport. Virginie Fulpin vous attend dès 20h ce soir avec son équipe en studio et les envoyés spéciaux d'Europe 1 au Parc des Princes.
Europe 1 qui accueillait aussi hier soir un invité de marque du football, toujours le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Interview exclusive après la nomination de Laurent Blanc.
Oui, le nouvel entraîneur de l'OL, 9e du championnat de Ligue 1. Lyon a enchaîné 4 défaites d'affilée et un nul face à Toulouse vendredi dernier. Relever l'équipe, voilà un défi que seul Laurent Blanc pouvait relever pour Jean-Michel Aulas.
C'est vrai que les chemins devaient se croiser à ce moment-là et effectivement, ça paraissait évident quand on s'est contacté et donc les choses ont pu aller très rapidement puisque match nul contre Toulouse, qui était en fait la dernière chance que nous étions fixés, il fallait absolument gagner ce match. Donc vendredi soir, samedi matin ou même dans la nuit, les choses étaient en route et dimanche, en fin d'après-midi, Laurent était à Lyon et nous confirmait qu'il venait nous tirer d'affaire pour la fin du championnat. Mais c'est l'aboutissement d'un rêve, en fait, qui a mis quelque temps à se concrétiser.
Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, il était en exclusivité hier soir sur Europe 1.
Et puis un mot de judo avec les championnats du monde qui démarrent dans une heure. Phase éliminatoire de la catégorie des moins de 100 kilos. Un premier test pour le français Kenny Livez à 20 ans. Il a repris la compétition après un AVC l'année dernière. Retour en beauté avec un titre de champion du monde junior cet été.
C'était le journal des sports avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'était le journal de Roman Hockey. Merci Roman.
Il est 6h07 et vous restez avec nous dans un instant le pressing sur Europe 1.
Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
6h10, très bon réveil sur Europe 1. Vous venez de nous rejoindre peut-être. Eh bien, ça tombe bien. On va pousser la porte du pressing, Omblin.
Les articles qui nous ont plu dans les journaux du matin et que nous avons envie de partager avec vous autour de la table, Dimitri Vernet. Alors Dimitri, qu'avez-vous lu ?
Eh bien, c'est un article dans Ouest France qui m'a tapé dans l'œil. Ce matin, on parle de douche.
Ah oui !
Vous y êtes peut-être.
C'est le GFort, là, c'est le GFort.
Oui, oui. C'est l'heure pour peut-être quelques auditeurs. Bon, pour nous, Omblin, Alexandre, c'était un peu
plus tôt.
Il y a des heures.
Exactement. Bon, vous avez remarqué, quand on est sous la douche, on se détend. Pour certains même, on chante ou alors on pense, on réfléchit. Et là nous vient souvent une idée de génie.
Celle-là, exactement.
Eh bien, figurez-vous que ce phénomène porte un nom que les scientifiques appellent l'effet douche. Et c'est tout le but de cet article qui nous explique pourquoi les meilleures idées nous viennent sous la douche. Alors, il y a eu toute une étude autour de cette question et des chercheurs américains semblent avoir trouvé la véritable réponse qui est plutôt simple. Cela reposerait sur l'errance d'esprit. Car oui, lorsqu'on fait une tâche peu exigeante sur le plan intellectuel, nous avons une tendance à laisser nos pensées vagabonder, ce qui permet à la créativité de s'exprimer.
Et donc, à condition que l'eau soit bien chaude quand même.
Hein. C'est ça, et donc quoi de mieux qu'une douche pour constater ce phénomène finalement. Et vous allez, je vous vois venir, vous allez me dire, c'est exactement pareil dans d'autres situations, avant de dormir par exemple. Eh bien non, puisque l'étude explique qu'il faut malgré tout effectuer une petite tâche dans le même temps, ce qui va légèrement stimuler notre concentration. C'est donc à ce moment-là que la douche devient donc intéressante et qu'elle devient donc le lieu des grandes envolées de nos pensées. Et donc comme quoi la douche n'a pas que pour but l'hygiène. Pourquoi les meilleures idées nous viennent sous la douche, c'est à lire dans Ouest France ce matin.
Les meilleures idées, alors jamais les pires.
Ouais, c'est ça.
Ou les pires, oui, c'est vrai.
Effectivement, il vaut mieux ne pas s'endormir sous la douche.
C'est un bon conseil aussi.
Oblin, qu'est-ce qui vous a arrêté ce matin ?
Alors, on parle de la douche chaude à des régions un petit peu plus fraîches. Que diriez-vous de partir à l'aventure dans l'une des régions les plus hostiles de la planète ? Une région où les températures descendent jusqu'à moins 60 degrés, balayées par des vents de 100 km/h.
L'Antarctique ?
Oui, presque l'Arctique.
L'Arctique.
Oui.
C'est peut-être
nos prochaines vacances. Alors ça, c'est le cas de figure où vous restez à l'air libre. Sur la banquise, donc, dans le Nord, au pôle Nord. Moi, je vous propose, en plus de vous immerger dans les eaux glaciales, sous la banquise. Enfin,
j'ai froid. C'est un choc après la douche, votre histoire.
Non, pas moi. Hein. C'est pas moi qui propose ça. C'est le français Alban Michon, grand spécialiste de la plongée sous la glace. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, on apprend que ce mordu d'iceberg et de défi lancé dans des conditions extrêmes souhaite vivre 6 mois sous la banquise.
Il va s'installer sous la glace.
Oui.
Pendant 6 mois.
Exactement. Pour cela, parce que ça se fait pas comme ça, Alban Michon imagine une plateforme, une sorte de soucoupe ressemblant à une navette spatiale. Sa capsule de l'extrême pourrait, nous dit-il, accueillir des scientifiques européens. Il pourrait ainsi étudier l'évolution de la biodiversité ou la présence de microplastiques dans l'océan. Une station polaire qui pourrait servir aussi de base d'entraînement spatiale, puisque les conditions hors normes se rapprochent de celles d'une mission en orbite. Voilà, Alban Michon a déjà élaboré les plans de sa capsule. Il a tout prévu, ou presque, un centre de contrôle à la surface avec des équipes prêtes à intervenir. C'est quand même indispensable, hein, il y en a certains qui sont quand même à l'air libre pour, au cas où, venir nous chercher à 10 mètres de profondeur, parce que la capsule, elle est quand même sous de 10 mètres en dessous de la banquise, avec à l'intérieur un labo, une hydrolienne, une bulle de réunion sous-marine. Ça m'intrigue beaucoup, cette bulle de réunion sous-marine. Je ne sais pas si c'est là où on prend le café.
Où on trouve les meilleures idées.
Sans doute. Pour le moment, il n'a pu réunir que 10% du budget d'expédition, donc 10% de 14 millions. Il reste un petit peu de marge. Et il espère lancer l'expédition dans trois ans, mais rien ne peut décourager celui qui a déjà parcouru plus de 1000 km en kayak le long du Groenland et qui a passé 62 jours tout seul sur la banquise, en plus d'avoir nagé un nombre incalculable de fois sous les icebergs. Il s'appelle Alban Michon. Moi, je l'admire profondément. Il veut vivre 6 mois sous la banquise. C'est dans Le Parisien aujourd'hui en France.
En perso, je réserve mes meilleures idées à la douche plutôt qu'à la glace.
Hein. Oui.
C'est une sorte de station spatiale qui est partie dans l'autre sens.
C'est ça, exactement, qui plonge au lieu de s'élever. Bon, on va voir. On va suivre, expédition, peut-être en 2025. À vous, Alexandre.
Alors, je voudrais quand même qu'on s'arrête, moi, sur un événement majeur qu'on est très nombreux, malheureusement trop nombreux, à avoir loupé. Ce week-end, chez nos amis belges, c'était le festival de la coupe mulet.
Ah,
vous savez, la fesse mulet, ce rideau de cheveux bien long derrière et qui recouvre la nuque. C'était peut-être d'ailleurs la plus grosse concentration mondiale de mulets. Samedi dernier, ça s'est passé à Ytre, petit village francophone au sud de Bruxelles. 3e édition de ce festival. Il y avait plus de 600 adeptes, donc porteurs de cette coupe de cheveux sur place, coupe de cheveux remise au goût du jour, peut-être par Billy, le fameux Billy, ce personnage de la série Stranger Things qui déboule au lycée dans sa vieille Chevrolet Camaro. Alors comme tout festival, il y a une remise de prix, le prix de la meilleure coupe mulet. Bah oui, c'est pensé comme un vrai championnat d'Europe. Hein. Il y a des catégories.
Il y a les catégories, ouais.
Il y a la queue
drap. Qu'est-ce qui les différencie finalement?
Bah, la meilleure queue drap. Le meilleur mulet moderne. Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle les mulets modernes.
Ne me posez pas
la question. Le mulet féminin. Mais oui, parce qu'attention, c'est pas réservé aux hommes, tout ça. Laura, par exemple, elle porte le mulet. Ça fait 1 an et demi qu'elle le fait pousser. Et qu'on se le dise, c'est de l'entretien. Décoloration des racines tous les 2 mois. Une permanente toutes les 2-3 semaines.
Quand même.
L'élimination des pointes. Alors, pourquoi le mulet? Alors, certains expliquent qu'ils ont craqué pendant le confinement. Eh oui, pendant le confinement, on pouvait pas aller chez le coiffeur. On s'ennuyait. Alors, c'était tentant d'expérimenter le mulet. Mais oui, mais pourquoi le mulet? Réponse d'une participante qui se fait appeler Amulet Poulain. Alors Amulet Poulain dit « Nos mulets nous couvrent la nuque ». Et oui, ça nous tient chaud. Réponse maintenant d'Audrey. Audrey, elle vient de Bretagne. Et elle explique qu'elle aime bien déranger un peu les gens avec son mulet. Ça ne la dérange pas qu'on se retourne parfois sur son passage. Réponse d'Alex. Alors lui, Alex, il prophétise. Il nous dit « C'est la mode de demain, le mulet. On est en avance sur tout le monde et vous verrez que dans 2 ans, tout le monde aura la coupe mulet.
Ouais. » En avance, pas en retard.
Oui.
Non, mais je voulais juste préciser.
Non, c'est vrai. C'est peut-être le chaînon manquant du parfait hipster, qui sait. En tout cas, le mulet, le festival de la coupe mulet a de plus en plus de succès au sud de Bruxelles, donc 3e édition.
Incroyable. Ah, en Belgique. Sachez qu'il y a aussi une compétition en Australie.
En Australie.
Oui, effectivement.
Ça fait un peu plus loin.
Exactement, pour y aller. Merci beaucoup. Alexandre, merci. Dimitri, c'était le pressing. Et dans un instant, sur Europe 1, la partition de Lionel Richie.
Votre partition à 6h20, Omblin, on est au milieu des années 80, c'est un terrain à l'époque largement occupé par Michael Jackson et Prince, et bien malgré tout, un certain Lionel Richie va réussir la prouesse de faire danser la planète tout entière lors d'une seule et même soirée.
Je vous dresse le tableau, Alexandre, nous sommes le 12 août 1984, la nuit est tombée sur le stade Los Angeles Memorial Coliseum. Lionel Richie, en blazer bleu scintillant et pantalon blanc, arpente une scène immense sur laquelle sont projetés les 5 anneaux olympiques. Well, my friends, the time has come.
raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done.
Avec All Night Long, le chanteur enflamme les 92 000 personnes présentes dans les tribunes et les 2 milliards de téléspectateurs qui assistent à la cérémonie de clôture des JO.
Et en 9 minutes, Lionel Richie écrit sa légende.
Et il occupe désormais le rang de superstar international avec une chanson qu'il voulait justement universelle, composée sur un air de calypso pour faire la fête. Paris réussi et ironie de l'histoire, le show pour conclure ces Jeux Olympiques de Los Angeles avait d'abord été proposé à Michael Jackson, qui pour une histoire de sponsor avait dû refuser.
Long apparaît 10 mois plus tôt sur l'album Can't Slow Down. Oui. C'est ça, hein.
Oui, Can't Slow Down, un nom de disque qui en dit long. Alexandre, depuis qu'il s'est lancé en solo, rien ne peut arrêter Lionel Richie. Rapide retour en arrière. C'est au sein du groupe Commodore qu'il commence, une bande de copains rencontrés à l'université américaine de Tuskegee en Alabama. Lui, qui a longtemps voulu entrer dans les ordres, abandonne instantanément ses ambitions spirituelles lorsqu'il prend conscience de son pouvoir de séduction sur la gente féminine au milieu de son groupe de garçons.
Mais dans les années 70, les Commodores deviennent le fleuron du label Motown à Détroit.
Et après un peu plus de 10 ans de bons et loyaux services, Lionel Richie sent qu'il est temps de continuer sa route tout seul. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide.
Je vois que ça vous fait sourire, Omblin. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs particuliers.
Tellement.
En tout cas, Lionel Richie sera un premier album essentiellement composé de ballades.
Les mêmes qu'il chantait lorsqu'il était leader des Commodores, certaines à l'atmosphère cotonneuse, d'autres un peu plus relevées et dans l'air du temps. Il prouve surtout, et une bonne fois pour toutes, qu'il a un sens de la mélodie imparable.
Alors, succès honorable pour ce disque, mais impossible d'atteindre la place de numéro 1 alors dans les classements américains.
Occupé durablement par Thriller de Michael Jackson, encore lui, 2 ans plus tard, Lionel Richie tient sa revanche. Son album Can't Slow Down est le plus grand succès de l'année 1984. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. I'm stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. C'est vraiment le champion des chansons romantiques, Lionel Richie avec Stuck on You, extrait de l'album Can't Slow Down, le plus grand succès de sa carrière, sorti le 11 octobre 1983.
Merci Omblin, 6h25 sur Europe 1, très bon réveil à tous. Après le journal de Fanny Marceau, l'interview Écho, c'est ce bras de fer qui se tend entre les pétroliers et les grévistes, près d'une station service sur 3 en situation de pénurie de carburant. Comment trouver une porte de sortie rapide à cette crise? À 6h40, je recevrai l'économiste Bertrand Martineau.
Avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Un tiers des stations-service toujours à sec ce matin, mais pour celles qui sont approvisionnées, c'est un soulagement. Europe 1 en direct dans un instant avec Thibaut Hu. Il accompagne un chauffeur-livreur de carburant dans ce journal. Négociation au point mort chez Total. Le gouvernement, lui, ne peut laisser le pays être bloqué. C'est ce que prévient Matignon. L'Ukraine retient son souffle. Pas de nouvelles frappes russes cette nuit. Joe Biden promet la livraison de nouveaux matériels de défense anti-aérien. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La question que tout le monde se pose ce matin, quand est-ce que ça va finir, les automobilistes à bout, alors que 30% des stations-service sont à sec et ça ne va pas s'arranger. Le mouvement de grève dans les raffineries Esso et Total a été reconduit et élargi. On va vous expliquer tout ça sur Europe 1 dans un instant. Dans ce contexte, le moindre ravitaillement est une lueur d'espoir. Bonjour Thibaut Hu.
Bonjour.
Vous êtes justement pour Europe 1 avec un chauffeur-livreur de carburant ce matin. Vous avez déjà fait une première escale dans une station-service de Corbeil-Essonnes en région parisienne. Retour au dépôt pour recharger les cuves avant une autre livraison.
Oui, tout à fait, je suis en train d'attendre le chauffeur. Je suis juste devant le grand camion-citerne avec sa grande cuve blanche. Il fait 12 mètres de long. On vient donc de livrer 27 000 litres d'essence, du gasoil, du sans-plomb, du super-éthanol, du carburant qui vient directement des stocks stratégiques débloqués par l'État. Et la mission ce matin, c'est ravitailler des stations essence. Et celle que Christophe, le chauffeur-livreur que j'accompagne, a approvisionné il y a quelques instants, était complètement vide.
Donc ici, on a 200 000 litres de capacité en gasoil dans ce magasin-là. Et on en amène 20 000 ce matin. Donc les cuves sont vides. Je pense que en 4-5 heures, je pense que la station est vide. Ouais. Les commandes se font actuellement pour essayer d'en avoir un peu pour tout le monde, histoire de que tout le monde ait un peu de carburant pour que les gens puissent se servir. Quoi. Les quantités ont été réduites pour ça.
Et ce qui est frappant, hein, c'est que dès qu'on est arrivé à la station, tout de suite, des voitures se sont rangées derrière nous pour faire le plein. Par exemple, Marc attendait de pouvoir remplir son réservoir pour repartir.
Dès qu'on voit un camion, on le suit jusqu'à la station. Donc là, je m'arrête et je me suis dit, il va remplir et puis après, je pourrais mettre mon essence. C'est en réserve. Là, je suis censé dormir, là. Là, j'ai été exprès pour mettre de l'essence pour pouvoir aller au travail demain matin.
Voilà, et maintenant, nous allons prendre la direction de Troyes pour livrer une nouvelle station en grande surface. Si ça roule bien, on devrait y être dans 2 heures et les automobilistes devraient être très nombreux pour nous y accueillir.
On n'en doute pas une seconde. Merci Thibaut Hu qui nous fait vivre ces livraisons de carburant en direct ce matin sur Europe 1. Face à des stations qui se vident, plusieurs voix s'élèvent. En PACA, le syndicat Sud Santé demande à l'ARS de déclencher le plan blanc afin de permettre aux professionnels de santé d'avoir accès au carburant en priorité.
Et près de 30% des taxis sont à l'arrêt. L'Union nationale des taxis, qui regroupe 4000 adhérents, réclame elle aussi d'être ajoutée à la liste des véhicules prioritaires, ne serait-ce que pour les urgences, comme le transport des patients dialysés.
Une vraie pagaille. Et malgré la colère des automobilistes et les pressions du gouvernement, les négociations entre raffineries et grévistes sont au point mort, Baptiste Morin.
Oui, dialogue de sourds entre la CGT et Total Énergie. Le mouvement est reconduit jusqu'à aujourd'hui et c'est tant même, car une quinzaine de stations-service de la filiale Argedis seront fermées dès ce matin. La CGT demande toujours 10% d'augmentation sur les salaires de 2022. Total Énergie a bien cherché une sortie de crise en promettant d'avancer au mois d'octobre les négociations salariales prévues en novembre et ce, à condition que le mouvement s'arrête. Proposition refusée, comme l'explique Éric Cellini, le coordinateur syndical de la CGT.
Les salariés ne sont pas mis en grève pour des promesses. Quand Total dit « on pourrait éventuellement avancer à octobre si vous arrêtez la grève », c'est pas suffisant. Total aurait été mieux inspiré en disant « nous, on convoque les organisations syndicales tel jour à telle heure et on parlera de tel et tel sujet ». Il aurait pu très bien être dès lundi matin, 8h.
Le syndicat qui regrette aussi le déblocage des stocks stratégiques par l'État et l'importation de carburant par Total Énergie pour tenter de compenser. La CGT accuse Total Énergie de jouer la montre. De son côté, le gouvernement demande au préfet de prendre des mesures pour empêcher la constitution de stocks inutiles. Très concrètement, interdit de remplir des jerrycans en station-service dans toute la France.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
Il est 6h34, laissez le temps au débat, ne pas avoir recours au 49-3. Voilà l'appel solennel hier soir d'Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Alors que les députés examinaient en première lecture le projet de loi de finances du gouvernement, texte que les oppositions ont d'ores et déjà annoncé ne pas voter, l'exécutif pourrait dégainer le 49-3 qui permet une adoption du texte sans vote d'ici la fin de la semaine. Nous ne pouvons pas risquer un blocage cas, j'ai accepté que le débat s'enlise, a déclaré le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal.
Dans l'actualité internationale, la Russie a encore prouvé qu'elle est un État terroriste. Après les bombardements d'une dizaine de villes et la mort d'au moins 14 civils, l'Ukraine a dénoncé ainsi hier des crimes de guerre à l'ONU.
Oui, indignation de la communauté internationale qui condamne unanimement ces frappes sur Kiev, Lviv ou Dnipro. Cet après-midi à 14h, les membres du G7 se réunissent en urgence, visioconférence à laquelle participera Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui s'est entretenu avec son homologue américain hier, Alexis Guilleux.
Oui, pour Joe Biden, ces frappes sont l'illustration de la brutalité absolue de la guerre illégale menée par Vladimir Poutine. Ces attaques sans but militaire ne font que renforcer l'engagement des États-Unis aux côtés du peuple ukrainien, dit le président. Washington va continuer à fournir des armes à l'Ukraine, assure la Maison-Blanche, y compris des systèmes perfectionnés de défense anti-aérienne. Alors on ne sait pas exactement de quels équipements parle Joe Biden, mais en septembre, le Pentagone a déjà annoncé la livraison dans les prochaines semaines de 2 systèmes de défense anti-aérienne et 6 autres à plus long terme. Ce sont les mêmes actuellement utilisés à Washington pour protéger les bâtiments de la capitale fédérale américaine. Volodymyr Zelensky réclame depuis le début de la guerre des armes et des systèmes plus avancés. La défense anti-aérienne est la priorité numéro 1 de la coopération de l'Ukraine avec les États-Unis, explique-t-il. Une manière de rajouter encore davantage de pression sur Joe Biden, car il reste dans l'arsenal américain et chez les alliés de l'OTAN des armes défensives plus précises avec des systèmes de radar parmi les plus performants au monde.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. De son côté, Emmanuel Macron a fait part hier de son extrême inquiétude. Il a promis d'augmenter le soutien de la France à l'Ukraine, notamment en matière d'équipement militaire.
Allez, on prend maintenant la direction de Toulouse pour une exposition passionnante. C'est une rétrospective consacrée à Nikit Saffal.
20 ans après la disparition de l'artiste, près de 200 de ses œuvres sont à découvrir au musée des abattoirs, des travaux des années 80-90 que le milieu artistique avait eu du mal à comprendre à l'époque et qui pourtant reste d'une étonnante actualité. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Toulouse, Benjamin Péter.
On connaît bien sûr les nanas, ces immenses statues de femmes, tout en rondeur et en couleur, mais à partir des années 80, Nikit Saffal tombe malade et derrière la couleur, les thèmes évoqués sont plus sombres. Le racisme, la violence, le sida dont plusieurs de ses amis décèdent. Une noirceur qu'elle voulait affronter, comme s'en souvient sa petite fille, Bloom Cardenas.
Elle était rigolote, elle faisait des blagues, mais par contre, elle disait que c'était important d'avoir peur, de connaître ses peurs. Elle adorait me lire Oscar Wilde ou les trucs comme ça, on prenait des voix, ça faisait vraiment peur. Mais elle disait, c'est important de vaincre ses peurs. On souffre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas aller étaler sa souffrance. En fait, on va essayer de donner du bonheur.
À l'époque, l'engagement de l'artiste pour le féminisme, l'écologie, l'art pour tous est mal compris. Mais pour Annabelle Ténez, la directrice du musée des abattoirs, cette partie de son œuvre est plus que jamais d'actualité.
Elle était très en avance. Les dernières lithographies traitent du droit à l'avortement, du contrôle des armes à feu, du réchauffement climatique, comme autant de problèmes qui vont arriver. Ça a l'air d'être fait hier.
C'est aussi une période où Nikit Saffal affirme son indépendance artistique, financière, qui se traduit par la création du Jardin des Tarots en Toscane. Plusieurs salles évoquent la démesure de ce projet à travers des statues venues d'Italie et des maquettes préparatoires. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Enfin, en football, le retour de la Ligue des Champions ce soir à Paris. Match retour PSG-Benfica.
Quatrième match de phase de poule pour les Parisiens. Une semaine après leur nul au Portugal, ils devront faire mieux, évidemment. Coup d'envoi 21h à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Sport.
Évidemment. Merci Fanny Marceau, 6h38. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Vous avez de plus en plus de mal, forcément, à faire le plein. Et toujours aucune sortie de crise ce matin. La grève a été reconduite pour au moins 24 heures chez Total Energy et Esso ExxonMobil. Alors comment sortir de cette impasse? Je reçois dans un instant l'économiste Bertrand Martineau. A tout de suite.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Il va être plus compliqué encore de faire le plein ce mardi. La grève chez Total Energy et Exxon a été reconduite de 24 heures. Elisabeth Borne a tenu hier soir une réunion de crise, mais sans annoncer de mesures. Comment sortir de l'impasse? Votre invité Alexandre est l'économiste Bertrand Martineau, spécialiste du marché du travail à l'Institut Montaigne.
Bonjour Bertrand Martineau.
Bonjour.
Aucun signe de détente ce matin dans ce bras de fer entre pétroliers, entre les pétroliers Total et Exxon et les syndicats. Bloquer, ce n'est pas négocier, c'est ce que déclarait hier Emmanuel Macron. Dans la soirée, réunion d'urgence à Matignon, pas d'annonce particulière à la sortie. On voit que l'État essaie de tenir le rôle d'arbitre, c'est un rôle limité dans cette crise.
Oui, il s'agit d'une entreprise privée, oui. Effectivement. L'État, évidemment, comme c'est une entreprise très particulière avec des incidences sur la vie quotidienne des gens, l'État, évidemment, les moyens de réquisitionner. Ça, c'est un autre sujet, effectivement. Mmh. Mais l'État ne peut pas intervenir directement dans la négociation salariale.
La CGT demande 10% d'augmentation salariale pour les salariés des raffineries, 7% au titre de l'inflation, 3% au titre du partage des richesses. 10%, vu le contexte, revendication économiquement réalisable, légitime ?
Ben, il faut voir la situation d'entreprise par entreprise. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'inflation est plutôt à 6% en ce moment. Mmh. Et donc, Total Energy est une entreprise très particulière, à la fois par le niveau de ses bénéfices et aussi par le niveau déjà de ses salaires.
Alors, je rappelle quelques chiffres. Ce
n'est absolument pas une entreprise typique en France.
Quelques chiffres, Bertrand Martineau. En effet, Total a fait plus de 10 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre. La rémunération du PDG a augmenté de 52% en 2021. Et Total Energy a annoncé verser un dividende exceptionnel de 2,6 milliards d'euros à ses actionnaires. Voilà effectivement le contexte qui fait que la CGT demande 10% et pas moins d'augmentation salariale.
Oui, mais c'est encore une fois, c'est une entreprise très très atypique. Donc il faut regarder les marges de main-d'œuvre de l'entreprise. Il faut regarder aussi le niveau des salaires tel qu'il est aujourd'hui, qui est très très supérieur au salaire équivalent dans les autres entreprises françaises. Là, on est sur une situation très particulière, pas du tout représentative de ce qui se passe dans l'économie.
Pour le gouvernement, il y a un vrai dilemme. Faire pression sur les pétroliers pour régler la crise, oui, mais faut-il faire pression pour accorder 10% d'augmentation ?
Bah, c'est le problème du précédent, c'est-à-dire que le risque de tout ça, c'est de déclencher un peu un phénomène de boucle prix-salaire, c'est-à-dire que vous avez de l'inflation. Pour l'instant, les salaires augmentent plutôt moins vite que l'inflation, sauf au niveau du SMIC, puisque le SMIC est indexé sur l'inflation. Le SMIC a été revalorisé 3 fois déjà depuis le début de l'année. Donc le pouvoir d'achat des salariés est protégé au niveau des plus bas salaires. En revanche, effectivement, il y a un problème au niveau des salaires qui sont au-dessus. Et pour l'instant, le gouvernement a essayé de jouer non pas sur les salaires, mais sur les prix, c'est-à-dire en modérant l'inflation au prix de dépenses publiques supplémentaires. C'est le bouclier tarifaire sur le prix d'énergie.
Ce que vous nous dites, Bertrand Martineau, c'est que si les grévistes sont augmentés ici de 10% au terme de cette crise, c'est un signal envoyé à tous les salariés dans le contexte de la flambée des prix qu'on connaît.
Oui, enfin... C'est pas ça qui déclencherait, c'est pas cette seule négociation salariale dans cette entreprise très particulière qui déclencherait de manière générale une augmentation des salaires. Mais c'est le sujet de l'entreprise en particulier. On peut pas généraliser encore ce qui se passe sur Total Energy. La capacité de blocage des syndicats de Total Energy n'a évidemment rien à voir avec ce qui se passe dans le reste de l'économie.
En tout cas, c'est le risque d'une multiplication de revendications catégorielles et de mouvements sociaux pour d'autres professions qui ont aussi des moyens de blocage.
Mais tout à fait. Il y a effectivement un risque. Pour l'instant, encore une fois, les salaires n'ont pas augmenté en ligne avec les prix. Et donc, on peut imaginer effectivement que dans les mois qui viennent, il y ait des revendications salariales supérieures qui, elles-mêmes, généreront probablement, dans ce cas, une hausse des prix supplémentaires.
Est-ce qu'on a le risque d'une spirale inflationniste, Bertrand
Martineau ? Pour l'instant, il n'y en a pas en France, il n'y en a pas aussi chez nos voisins. Tout va dépendre, en fait, de la durée du choc que nos économies subissent. C'est-à-dire que si l'inflation... importé, c'est-à-dire du fait des prix des matières premières et de l'énergie est durable, dans ce cas-là, nécessairement, comme ça s'est toujours passé autrefois, les salaires risquent d'augmenter et les entreprises n'auront pas d'autres possibilités que d'augmenter les prix, ce qui va eux-mêmes attiser les revendications salariales et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, on rentre dans un cycle effectivement très, très inquiétant.
Total a pour l'instant accepté d'avancer les négociations salariales à ce mois d'octobre. On entre dans le cycle des NAO, les négociations annuelles obligatoires. Est-ce qu'il faudrait rentrer plutôt dans un cycle de négociations permanentes, en tout cas tant que l'inflation n'est pas stabilisée ?
Alors, déjà une remarque, les dernières personnes dans les entreprises ou les branches professionnelles qui ont négocié dans un univers inflationniste, ces personnes sont en retraite en fait, puisque ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas eu d'inflation qui dépassait 3-4%. Donc ça veut dire qu'on a perdu les réflexes. Et par ailleurs, le problème de l'inflation, c'est pas son niveau, c'est le fait qu'elle est totalement incertaine. C'est-à-dire que si vous êtes sûr que l'année prochaine, il va y avoir 5% d'inflation, tout le monde se met d'accord sur les prix et salaires, et il n'y a aucun problème. La difficulté avec l'inflation, c'est que vous n'avez pas le moindre commencement de début d'idée de ce que va être l'inflation l'année prochaine. Donc sur quelle base vous négociez ? Et aussi bien les salariés que les entreprises ont besoin d'un minimum de sécurité, de stabilité. C'est-à-dire que le salarié va vouloir protéger son pouvoir d'achat, et puis l'entreprise va vouloir avoir un minimum de certitude sur sa trajectoire de masse salariale. Bon. Et donc, ça rend les négociations très difficiles. Et on ne peut pas être non plus dans la négociation permanente. C'est-à-dire qu'on ne va pas négocier 3-4 fois dans l'année avec des entreprises et des salariés, des syndicats qui ne vont plus faire que ça, de négocier sur les salaires en permanence. Donc, on est dans une situation difficile où, de temps en temps, c'est les salariés qui vont perdre du pouvoir d'achat. Et dans d'autres cas, c'est les entreprises qui vont perdre des marges, mais avec une très grande incertitude.
Alors, perte de pouvoir d'achat, cette crise, elle provoque une nouvelle flambée des prix à la pompe. Hein. Plus 7 centimes sur l'essence, plus 10 centimes sur le gazole. On augmente encore le risque de fracture sociale, Bertrand Martineau.
Ah bah là, clairement, oui, la hausse du prix de l'essence, et on l'avait déjà vu d'ailleurs à l'époque des Gilets jaunes, c'est un facteur majeur de rupture de l'égalité et entre les personnes qui sont fortement consommateurs de carburant et puis les autres. Donc on est sur une crise qui, effectivement, n'est pas qu'économique, qui pourrait déboucher effectivement sur une crise sociale. Mais de manière générale, l'inflation est quand même quelque chose d'extrêmement toxique à terme. Parce que elle rend très compliqué le comportement des acteurs économiques. On rentre dans une période de totale incertitude. C'est ça la difficulté, en fait. Et quand vous parlez de négociations salariales, c'est bien sûr qu'il faut des négociations salariales, mais sur quelle base ?
Merci Bertrand Martineau, économiste, spécialiste du marché du travail à l'Institut Montaigne, alors qu'on n'entrevoit pas de sortie de crise dans cette période de pénurie de carburant qui dure maintenant depuis 2 semaines, 6h48.
C'était l'Interview Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Europe Matin.
Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Bonjour Anissé.
Bonjour à tous.
De l'innovation médicale ce matin. On a peut-être trouvé une alternative à la prothèse du genou quand on souffre d'arthrose. Il s'agit d'un piston qui va amortir l'articulation. Comme sur les voitures.
Oui, c'est exactement ça. Un amortisseur que l'on place de chaque côté du genou, entre le bout de l'os de la cuisse et le tibia. C'est très discret, hein. Ça se fait avec une petite incision de 3 à 4 cm. Et en plus, c'est de l'ambulatoire, donc on rentre chez soi juste après. Et ensuite, une fois que c'est installé, le piston va amortir, va absorber toute la pression qui est mise sur l'articulation, ce qui va réduire, voire carrément éviter, toutes les douleurs. Alors, on rappelle quand même que le genou, c'est notre articulation la plus sollicitée, qu'avec les frottements, elle finit par s'user, ce qui provoque des douleurs quand on marche, qu'on essaie de monter des escaliers, c'est ce qu'on appelle l'arthrose. Mmh. Aujourd'hui, ce sont plus de 30% des personnes entre 65 et 75 ans qui en souffrent. Eh bien, il y a un nouveau traitement qui va pouvoir les soulager.
Est-ce qu'il y a vraiment une différence avec la chirurgie du genou ? Il faut quand même nous ouvrir pour installer cet amortisseur.
Oui, mais là, c'est une opération qui n'a rien à voir. La chirurgie du genou, ça consiste à le remplacer totalement ou partiellement avec une prothèse. C'est une opération qui est lourde, qui est irréversible, sous anesthésie générale et qui demande une très très longue réduction. Et c'est pour ça qu'on ne la propose qu'en dernier recours, quand la douleur devient vraiment insupportable. On va plutôt commencer par des petits antidouleurs classiques, des injections qui vont comme huiler l'articulation. Mais après, on n'a pas d'autre choix que de passer à la prothèse. Et bien désormais, il y aura une option, cette option de l'amortisseur qui va retarder encore plus le passage à la prothèse. Et encore une fois, ce sera une opération légère. On ne touche ni à l'os, ni au ligament, ni au cartilage. On installe juste ce petit piston là sur le côté et on rentre chez soi le soir même.
Alors la question qu'on se pose, Annie, c'est est-ce qu'on peut déjà se faire soigner avec ce traitement ?
Alors non, pas encore, mais ça devrait vraiment pas tarder. La technologie a été développée il y a pas loin de 10 ans, mais vous savez qu'en médecine, on prend tout son temps pour vérifier l'efficacité, s'assurer que l'amortisseur résiste bien dans la durée, qu'il n'y aura aucun rejet. Et c'est ce qui vient d'être validé après une très très longue étude clinique. Donc la technique va pouvoir commencer à être intégrée aux thérapies.
Merci beaucoup Anissé Mbida, c'était l'innovation sur Europe 1.
Europe Matin.
6h51 sur Europe 1. Les titres, Alban Le Prince.
Le bras de fer continue entre syndicats et direction de Total Energy et Esso. La grève se poursuit pour compenser le blocage de 2 de ses 3 raffineries. Total annonce l'importation de carburant. Le gouvernement réunit en urgence hier soir débloque des stocks stratégiques. Au moins 14 morts et 97 blessés en Ukraine hier sous un déluge de bombes. L'Ukraine accuse la Russie de terrorisme. Conséquence, le G7 se réunit en urgence cet après-midi. Midi. De son côté, le président biélorusse accuse Kiev de préparer une attaque contre son pays. Alexandre Loukachenko annonce donc le déploiement de troupes communes avec la Russie. Et puis le Parc des Princes en folie ce soir. 4e journée de Ligue des Champions. Le PSG reçoit Benfica à 21h. Match à suivre évidemment dans Europe 1 Sport.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe Matin.
La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Algérie. Bonjour Nour Chahine.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une des journaux algériens ?
Eh bien, la photo d'Elisabeth Borne est en une de tous les journaux algériens. Les déclarations de la première ministre française font les gros titres, notamment en une de l'Expression qui reprend cette phrase d'Elisabeth Borne. « Nous sommes déterminés à construire une relation renouvelée ». La première ministre a d'ailleurs qualifié la 5e session du comité intergouvernemental algéro-français de « signe fort », une étape pour bâtir des coopérations plus denses entre les deux pays. Le journal en ligne précise que les deux gouvernements ont signé plusieurs accords dans divers domaines. Il s'agit entre autres de la restitution de 51 pièces de monnaie antiques par la France ou encore d'une déclaration d'intention dans le domaine du tourisme et de l'économie de la connaissance. Pour le soir d'Algérie, cette visite aura été fructueuse pour les deux pays, surtout que sur le plan pratique, la France demeure le premier investisseur hors hydrocarbures en Algérie, rappelle le quotidien.
Nous sommes maintenant en Chine avec Sébastien Lebelzik. Sébastien, les gros titres de la presse chinoise ce matin ?
Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, ce sont les déclarations d'Elon Musk hein, qui font couler beaucoup d'encre ici. Le China Daily nous rappelle que le milliardaire et patron de Tesla a un plan de paix pour régler le conflit Chine-Taïwan. Il propose, et la presse officielle ici s'en réjouit, qu'une partie de l'île soit contrôlée par le gouvernement chinois. Le Global Times y voit la solution, une solution raisonnable avec un haut degré d'autonomie pour Taïwan, un peu sur le modèle de Hong Kong. Alors évidemment, si la presse communiste est aux anges, celle de Taïwan comme Taiwan News et Apple Daily y voit une remarque déplacée, si ce n'est ridicule, et rappelle que l'homme d'affaires roule pour Pékin, où il a de gros intérêts économiques, dont une usine Tesla à Shanghai. Il avait d'ailleurs proposé, rappelle Taipei Times, ce genre d'arrangement pour régler la guerre en Ukraine.
Et nous voici enfin en Israël avec vous, Ariane Ménage. Qu'est-ce qui intéresse les journaux israéliens ?
À la une des journaux ici, des photos de plateformes d'extraction de gaz en Méditerranée, elles sont l'enjeu des négociations indirectes entre le Liban et Israël. Sous égide américaine, les deux pays tentent de trouver un accord sur la délimitation de leurs frontières maritimes. Cela, rappelle le Times of Israel, mettrait fin à un litige vieux de plusieurs décennies et ouvrirait la voie à l'exploitation d'une zone riche en gaz naturel, du gaz qui pourrait être à terme exporté vers l'Europe. Mais le temps passe et le quotidien israélien Ma'ariv s'interroge. Les négociations sont-elles tombées dans l'impasse ? Le très populaire Yedioth Aharonot nous apprend que Yair Lapid, premier ministre israélien, a refusé les dernières modifications apportées au texte par Beyrouth. Haaretz, grand quotidien de gauche, rappelle la position délicate du Premier ministre à 3 semaines des élections. Le camp dirigé par son opposant, Benjamin Netanyahou, a fait de ces négociations un motif d'attaque politique répété.
Merci Ariane Ménage, merci à nos correspondants. 6h54 sur Europe 1, dans un instant la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.
Europe Matin. 6h57, excellente matinée avec Europe 1.
Et voici Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.